Alright. Now, ladies and gentlemen, this is Rockers.
Et
Roger Fringant.
Sans oublier
Grovitch.
Ouais, c'est Grovitch qui est à l'antenne. Je suis content parce que c'est toujours l'affreuse créature. Ah, Jean-Loup qui s'accapare, qui chipe le micro à mon bon Grovitch. Et mon bon Grovitch, on sent la force chez lui, on sent la puissance retenue. Mais il ne peut pas tuer le père quelque part un petit
non,
peu.
C'est une
un peu
fois
dommage.
Par an, il a le droit et c'est ce soir.
Voilà, bah, c'est gentil. Ouais. Eh, parce que c'est.
J'ai pas trop le droit au micro apparemment. Non, juste le droit de toucher au petit bouton, mais le micro.
Et Tom, il me dit, il est gentil parce qu'aujourd'hui c'est le 8 mars et c'est le journée des droits des femmes.
Voilà, c'est pour ça que Grovitch a le micro dès le début. On sait qu'il fait la femme dans le couple des techniciens.
C'est un micro rose en plus.
Bref, vous écoutez les Grignoux si on est en direct le mercredi de 20h normalement, mais bon, il va falloir qu'on cause avec Purple Rain.
Non, on était à 20h, il y avait la pub.
Ah oui, bon, on y était. Ah, c'est vrai. Ah bah bon, dans ce cas-là, pourquoi bon, bref, on a peut-être voyagé dans le temps.
Parce que vous étiez parti faire
chacun son humour là. C'est vrai que
non, mais c'est lui qui a dit ça.
Oui, mais ça
c'est votre créature.
Rire,
c'est votre créature. C'est pas moi qui a dit que vous étiez parti faire caca.
Non mais je suis plus.
C'est dingue. Il m'engueule. Alors lui il fait une connerie. Mais
apparemment il a l'immunité, il a le droit de tout faire.
Ouais, alors, il a le droit de tout faire. Il a tout pourri. Moi j'avais un pote qui avait comme ça un chat, une espèce de gros chat. Il l'avait recueilli comme ça. Il est devenu infernal. Il laboure les portes. C'est une horreur. Et ben c'est pareil. Vous me faites penser à un chat panache.
Non, est-ce que vous êtes déjà retrouvé avec un ordinateur en panne? Eh ben, vous comprenez mieux mes motivations profondes.
J'ai là. Monsieur Grovitch qui vient. Monsieur Grovitch vient sous 24 heures. Là, comment le truc est fait, c'est nickel. Et puis, on n'a pas besoin de supporter n'importe
bon,
quoi.
Bon, je laisse tomber le dimanche parce qu'on sait même plus à quelle heure et puis qu'on peut réécouter en tapant
les
Grignoux.
Et même de quoi on parle.
Oh, on va s'écouter un disque à la roue, là, déjà.
21h15.
Waouh. C'est parti. Programmation à Jean-Loup, je ne sais plus, mais c'est sûrement extrêmement bien.
Voilà, alors que Roger consulte ses fiches, il a un putain de nouveau de carnet à la Colombo. Hein, ça fait un moment que je l'avais pas.
Un, j'ai le carnet. Deux, j'ai une nouvelle imprimante que je dois au défunt. Ordi 35, dont m'a annoncé
SOS Ordi 35.
SOS Ordi 35. Pourtant, Dieu sait si à l'antenne, en tout cas, j'ai fait de la pub pour cette boîte qui avait aussi pour vocation, et c'est pour ça qu'on les avait invités à la radio, qui avait aussi pour vocation de vous expliquer qu'on n'est pas forcé de tout jeter à la poubelle, on peut aussi acheter intelligemment et on peut faire réparer.
Bah, voilà, mais bon, pas
après. Et vous avez donné un excellent cours de différents matos, ça sert à rien d'acheter de la merde, si on achète de la merde, faut pas aussi s'étonner non plus. Bref, il m'avait conseillé sur une imprimante grâce à laquelle, eh bien, ma foi, effectivement,
je la forêt amazonienne en train de partir.
Mais non, ça c'est du bois recyclé.
Oui, mais qui est pris dans la forêt amazonienne.
Mais non,
et tout le monde le sait, j'ai vu des documentaires à la télé quand même. Voilà.
Bref, nous recevrons ce soir pour cette émission bourrée Émeric Lenné, qui est, alors, c'est marqué coordination générale.
Oh là, ça veut dire quoi ça?
Alors, sur votre site.
D'une association aussi qui s'appelle 3IT Combo. Et une petite question, donc Grovi, je m'a donné la réponse. Bon bref, on en parlera plus tard, parce que au début c'est vrai, on pense qu'on invite une radio concurrente. 3IT Combo,
ouais, ça sonne
comme
sonne
une
radio, il a raison.
Et on a appris finalement c'est une référence à, on peut le dire maintenant, le c'est une référence. Pourquoi 3IT Combo pour une association qui parle de jeux vidéo?
Certains pensent que c'est une danse aussi, des fois.
Ouais, enfin, combo, ouais, c'est à ça que j'ai pensé au début aussi,
Non, ça vient bien des jeux vidéo et des jeux de baston en particulier, type Street Fighter et compagnie.
Et ça veut dire quoi? Donc, c'est peut-être Monsieur Grovitch. Ah, mon petit, allez-y. Allez-y.
Ah non, moi, j'ai juste déduit, ça se trouve, c'est pas ça. Moi, je suis parti du principe que 3IT Combo, quand on joue à un jeu vidéo, c'est, on a trois coups, donc les trois coups du jeu vidéo qui font un combo.
C'est ça.
Ouais, il y a de ça, c'est un enchaînement de coups dans un jeu de baston. 1, 2, 3, hit combo, ça peut monter à 4, 5, 6.
Oui, après, il y en a plusieurs des combos. Mais...
voilà. Bref. Il est bien, mon petit, hein.
Émeric, qui nous parlera justement, en deuxième partie d'émission, qui nous expliquera pourquoi les jeux vidéo font que les gens deviennent violents, agressifs, voire meurtriers en série. Bah, c'est ce que j'ai cru comprendre, là.
Exactement, c'est ce que je suis devenu.
D'ailleurs, vous avez une tête un peu inquiétante. J'imaginais à trouver un jeune geek, etc.
J'ai montré le site de l'association à mon fils, il était dégoûté quand il a vu les vainqueurs des Battle Rake et tout, il dit pop.
Et je sens qu'on va pas beaucoup m'entendre tout seul, je vais passer pour un con. Ah bah moi depuis Space Invader, il paraît que le monde est beaucoup
évolué. Je suis comme vous, Jean-Loup, mais après on se documente, bordel.
Vous avez des
rien, il a rien branlé. Il arrive la bite et son couteau, comme disait ma grand-mère.
C'est
et
pas
encore
vrai.
Encore pour le couteau.
Vous avez le génie, en fait, de vous entourer d'excellents conseillers. C'est pour ça que si vous aviez fait de la politique, vous m'auriez fait peur, là. Vous seriez peut-être à deux doigts des présidentielles, ça se trouve.
Je crois que la politique, dans l'ordre de l'horreur, je mettrais d'abord famille Troadec, comme ont explosé en 1000 morceaux, et après la politique.
Allez, bref, on s'écoute un petit morceau, et après on passe à la semaine, parce que l'heure tourne,
Il y a quand même plein de choses à dire.
Oui, ah oui, il y a des choses aussi qui me font rire, moi. On en parlera tout de suite. C'est parti.
C'est maintenant devenu une habitude, les grignoux ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
C'est ça Philou, t'as tout compris, c'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignou.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile.
Attendez, attends, tu me laisses parler,
Ah, il est en train de me tirer par la violence, oh, c'est ça vous couper.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Et oui, c'est ça la rubrique perso.
Bah, ce soir, je suis un peu déçu. Je pensais, Jean-Luc, que vous aviez au moins une feuille.
Ah non, bah,
on l'avait perdu entre la préparation et l'émission.
Vous savez ce que j'ai entre les deux oreilles? Ça s'appelle
des,
un cerveau.
Des lunettes.
Un cerveau. Et Roger, je sais comment l'exciter.
Roger, il a un beau calepin.
Oui, mais.
Donc, ouais, ça va être la rubrique à Roger.
Bah, ouais! Bah,
si ça avait été, imaginez que ce soit la rubrique à Roger.
Ouais.
Jean-Luc.
Jean-Luc.
Voilà, j'ai juste dire un mot, un nom. Fillon.
Alors,
moi, si je peux dire un mot, Fillon, c'est un peu bizarre ce qui se passe. Où tout le monde le lâche à droite à gauche, Juppé qui se tire, etc. Et il dit, c'est moi le chef, je suis, j'ai été élu aux primaires, j'ai le pognon, fermez vos gueules, et c'est comme ça.
Ouais.
Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, contre, où lui dit, bah, finalement, non, c'est bizarre. Ma fameuse théorie comme quoi les Français ont la mémoire courte risque peut-être de s'appliquer, dans le sens où, moi, il fiche un peu la trouille. Si ce mec-là arrive, avec toutes les casseroles au cul qu'il a, imposer à son parti sa présence, alors que elle est extrêmement discutée, qu'on va être président, on va pas rigoler, là.
Discuté et discutable.
Ouais, et on va pas rigoler, et là, tout le monde rentrait dans le rang, ce qui m'a extrêmement surpris. Est-ce que Juppé devait y aller ou pas?
Moi, ce qui m'a un peu sébédonné quand même, c'est la force de, comment, la puissance de feu, de, vous savez, de cette association là, comment, sens commun.
Voilà,
c'est ultra catho parce que
anti-avortement, anti-mariage gay, c'est ça là.
Et c'est ceux-là qui ont apparemment rempli l'écart. Alors, je sais pas si c'était l'écart Macron ou pas de tous. Alors si vous regardiez le public, c'est assez rigolo parce que comment, il y avait que des papis, que des mamies, et c'est effectivement toute une frange dont même Juppé a dit qu'il se désolidarisait, quoi. Il a dans son discours de renoncement, Juppé, et ben voilà, pouf, il a dit il se reconnaît pas dans la droite qui était au Trocadéro. Ils étaient pas 200 000 comme l'a dit Retailleau. Si vous regardez un petit peu, si vous zapotez sur Internet, il y a une petite séquence qui est amusante. On voit, on a qu'à dire 200 000. Ok, vous étiez 200 000. Voilà comment ça s'est passé. Les 200 000 personnes dans une place qui, au meilleur des cas, allez, en mettant des gens sur les épaules les uns des autres, on pourrait en mettre
des nains ou des personnes
ou des
de merde,
on pourrait en mettre 40 000, et en fait ils étaient une bonne trentaine de mille, point barre, sous la pluie, papy, mamie. D'ailleurs, il y a, c'est déjà pas mal, mais bon, effectivement, moi, ce qui m'a un peu troué le cul,
bah, c'est la capacité aussi de réactivité des forces réactionnaires, qu'on
voilà,
peut dire quelque
ouais,
part,
ouais,
qui est
ouais,
extrêmement efficace. Même s'il
et
pleut, ils sont là, quoi. Là,
et logistique. Et d'ailleurs, on a noté quelques refroidissements chez les papis et les mamies, effectivement, qui ont attendu sous la pluie. Et le bon Dieu les a un peu punis, d'ailleurs, ou c'est Odin peut-être qui les a un peu punis, parce qu'ils ont quand même ramassé plein de flotte sur la gueule. Et j'espère que les drapeaux bleu, blanc, rouge ont déteint. Sauf que moi, je retiendrai quand même un petit peu de cette histoire, quand même pas mal de choses. La prime, moi je dirais la prime de... c'est pour ça tout à l'heure vous me disiez, oui, vous auriez dû faire de la politique. Eh ben vous savez pourquoi je voudrais pas faire de la politique? Ça serait par exemple, il suffirait de me mettre une photo de Nadine Morano. Nadine Morano, je l'écoute jeudi soir à la télé, sur une chaîne d'info qui dit, le journaliste dit, bah alors est-ce que vous soutenez toujours Monsieur François Fillon? Mais vous rigolez. Vous croyez qu'on trouve un président, un candidat sous les pas d'un cheval? François Fillon est le candidat de la droite. Ça, c'était jeudi soir. Vendredi, l'eurodéputée Nadine Morano a demandé vendredi que François Fillon arrête sa campagne présidentielle. Je lui ai dit vraiment comme un crève-cœur, parce que voici quelqu'un qui est la stature, voici quelqu'un blablabla. Mais ce retrait, comment dirais-je, est inévitable, car les Français ne nous permettront pas d'arriver au second tour, blablabla. Ça, c'était vendredi. Et c'est véritablement, je dirais, comment vous imaginez, dans la politique, vous n'avez jamais de potes. Il y en a un qui vous soutient le jeudi, le vendredi, c'est le couteau dans le dos.
Et en attendant, avec toutes ces affaires, on parle que de la droite, l'extrême droite, du centre, et le Hamon, ils sont inaudibles. On les entend pas, Hamon, même Mélenchon.
À tel point que l'autre jour, je regardais la télé, je vois le scandale Fillon, et à un moment donné, je vois Hamon, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui, effectivement, c'est la campagne. Mais bon, mais c'est pas ça. Et on... Pète-moi du Fillon et j'ai... c'est scandale.
Et j'ai l'impression qu'on nous prépare psychologiquement un deuxième tour Marine Le Pen-Fillon ou Marine Le Pen-Macron. Et c'est vrai que dans tous les cas de figure, faut pas l'oublier, Marine Le Pen est en tête. Tom, allez-y, mon ordinateur
un peu fatigué. Les sondages, enfin, faut voir quand aussi même. Que depuis quelques temps, ils arrêtent pas de se planter sur tout.
Ouais,
quoi.
Mais ça peut être...
primaire, Trump...
Ça peut être constant. Extrêmement influençable aussi le sondage. Du coup, vous vous dites pourquoi je voterai Hamon. Allez, autant voter Macron.
Tout de suite.
Ce sera moins pire que Marine Le Pen.
C'est
Fillon,
exactement
quoi.
Ce que dit Delanoë, ex-maire de Paris, mais c'est complètement débile. Si on en est réduit dès le premier tour à se dire qu'il faut voter Macron parce que les sondages disent que Macron va aller au deuxième tour, ça veut dire qu'effectivement Macron va aller au deuxième tour. C'est complètement débile. Aussi, non, je crois qu'il faut que chacun vote suivant sa conviction et point barre. Et c'est quoi cette histoire de voter en fonction des... Et d'autres gens qui sont pas contents non plus, ce sont les autistes. Parce qu'à plusieurs reprises, Monsieur Fillon a déclaré « Je ne suis pas autiste, je ne vois pas les difficultés, j'ai compris, je ne suis pas autiste, etc. » Sauf que l'association SOS Autisme de France a demandé des excuses et a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel. 1-1-1. Même les autistes ne voteront pas François Fillon. Je me demande quand même si Macron va pas finir par avoir un boulevard.
Et si Macron est élu sur, ou Marine Le Pen est élu, sur quel parti s'appuie en fait? On va se retrouver dans des espèces de coalitions, de circonstances, ce qui est jamais arrivé sous la cinquième. Ça va être bizarre. Donc là, une période où il faut peut-être sûrement réformer. Je pense qu'on va rien foutre pendant 5 ans. Et je pense au Macron qui n'a quand même pas 40 ans, qui dit, bon allez, je vais commencer
à
faire...
Il n'a pas 40
Non, 39. C'est dingue. Ouais, et qui s'est dit, j'ai des ambitions. J'aime faire un petit peu les dents là pour former et bon bah je vais me présenter au présidentiel. Si on lui avait dit il y a 6 mois mais hey, tu risques d'être élu, je suis pas sûr qu'il mesure enfin je sais pas j'en sais rien, je sais pas. Et celui qui peut le dire
déjà celui qui aurait pu dire qu'il y a 6 mois Macron aurait été deuxième.
Et s'il y a un an on avait su que Trump aurait été président des États-Unis, bah personne nous aurait cru. Et pourtant on l'avait dit.
Voilà. Et pour finir avant un petit dix, c'est la deuxième partie de la rubrique, comment faut quand même noter que, alors je regarde maintenant un peu les réactions des tweetos.
Commentaires,
ouais, les commentaires, c'est rigolo. Il y en a une qui m'a bien fait rire, c'est un mec qui rigole, il dit « Oh putain, avec la pluie, un costard à 6000 boules, ravagé par la flotte. Enfin, c'est bon, avec le salaire de Pénélope, il devrait pouvoir s'en payer un autre. » Et une autre marque, il dit, et ça s'est vérifié, même le Canard Enchaîné a repris ça dans son édition d'aujourd'hui, « Avant, Fillon disait que la rue ne devait pas dicter la politique. Il n'a pas arrêté de le répéter. Oui, la rue ne doit pas dicter la politique, la rue ne doit pas dicter... Or, qu'est-ce qu'il a organisé au Trocadéro ? Une manifestation. Et c'est quand même la rue qui organise la politique, en tout cas en ce qui concerne son parti.
Alors par contre, ce qui devient un peu puant, avant de mettre le petit dé, puisqu'après on congrès sur la politique, est-ce que vous avez entendu parler de dernier rebondissement pour Macron, qui serait soupçonné, je crois que c'est dans le cadre d'aujourd'hui, de favorite.
Alors ouais, c'est aux États-Unis.
Et
alors,
ça devient un peu compliqué. Ouais, ça devient un peu fouille merde quelque part. On essaie de trouver. Bon bref, si j'ai bien compris, je sais plus quelle boîte financée par l'État français devait organiser une rencontre. On demande à Macron de faire le lien entre tout ça. Sauf qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Et le fait qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres, c'est du favoritisme. Mais il n'y a pas eu d'enrichissement personnel ni quoi que ce soit. Mais aussi les médias.
Même mon bon Jean-Loup.
On est d'accord. Que tout le monde est, à part, finalement, apparemment, Mélenchon, tout le monde est casserole au cul pour le moment.
Donc peut-être qu'effectivement les gens pourraient les gens pourraient être amenés à se poser la question de savoir est-ce qu'on n'a pas intérêt à voter pour ceux qui ont moins de casseroles.
Et pareil, avant de mettre un putain de petit disque ou 50 000 euros, c'est peut-être ça de vous avez entendu parler
de prêt.
Oups, 50 000 euros, on sait rien. Oh, j'ai oublié. C'est comme si je vous demandais est-ce que vous pouvez me prêter 50 euros, Roger.
Non.
Oups, j'ai oublié.
Alors, je vous dis tout de suite, c'est non. Donc,
c'est pas vous que je demanderai déjà.
Même pour un exemple, parce qu'après vous allez me dire oui, mais vous rappelez en direct. Vous allez... J'ai bien dit devant tout le monde que je lui prêtais pas 50 euros.
Donc 60, alors.
alors justement.
Enfin bon, bref, 50 000, c'est quand même...
Et il avait juste oublié de le déclarer.
50 salaires, c'est voilà pour un smicard.
Et il y en aura quand même à voter pour lui. Et enfin, moi, ce qui m'a un petit peu énervé, j'ai trouvé au détour du web, là, un article où on nous dit, au vu du chaos qui règne à droite du fait de l'affaire Fillon, le président de la République s'est posé la question de décaler le scrutin prévu le 23 avril. Peut-on reporter l'élection présidentielle? La question a été examinée en haut lieu en raison du chaos provoqué à droite pour l'affaire Fillon. Rudemont
réponse ici au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a réfléchi à l'hypothèse, explique à Marianne, un conseiller de François Hollande, pouf, mais aussi à l'Élysée. Alors, moi, ça me pose problème. C'est quand même pas de la faute des autres partis qui sont déjà engagés à la course, par exemple, qui n'ont pas de casserole. Je pense à Monsieur Mélenchon, par exemple.
Oh, monsieur, quand vous y allez, vous l'aimez
bien.
Non,
mais il a pas de casserole. Pourquoi, lui, on le priverait de son élection? Parce qu'à droite, ils ont pas été foutus de voter pour quelqu'un qui est clean. Ouais, enfin, je sais pas, vous en pensez quoi? Emmerick, par exemple.
C'est le grand classique de toute la classe qui est punie pour celui qui a foutu le bazar, en fait.
Bah ouais, mais est-ce que quand il y a dans un stade de foot, quand il y a des hooligans, le stade, parfois l'équipe est privée de supporters pendant un ou deux matchs?
C'est, vous voyez, punition collective et c'est forcément inéquitable. Et bon, bah, qui est le prof là-dedans?
Non mais c'est vrai que ce serait pas court de proposer que finalement, comme Fillon a merdé, ceux qui comptaient voter pour lui, eh ben justement ça compte pas, ils ont pas le droit de voter.
Non, c'est pas ça que je disais moi, c'est le report. Le report ça pose d'autres problèmes, parce que ça veut dire, parce que tel parti est en difficulté, on reporte l'élection, c'est quoi ces conneries?
Puis il y a quand même une constitution, non? 5 ans, c'est 5 ans là, c'est pas 5 ans et 3 mois quoi.
Vous savez quel est l'argument justement que développait François Hollande et le Conseil constitutionnel? C'était, oui mais c'est quand même un parti de gouvernement, donc on distinguerait deux choses. Voilà, les partis de ceux qui auraient le droit de gouverner et les autres. Bah, finalement, après, on s'étonne que les gens aient peut-être envie de voter pour les autres, quoi. Et justement, et on en finit.
Oui, on se met un putain de petit disque.
Mais
parce
c'est
que
peut-être la première fois depuis l'histoire de la Ve République où justement, il risque de pas y avoir de parti de gouvernement au deuxième tour. Si c'est Marine Le Pen et Macron.
Et pas de majorité à l'Assemblée nationale. Ce qui
ça,
peut
après,
dire.
C'est une autre histoire.
Et ça, c'est dans quoi? Dans 3 mois.
On aura une actualité chargée, oui. Mon bon Jean-Loup.
C'est vrai que
ça nous change du hollandisme mou. On se remet 5 ans.
François Hollande, voilà, on se fait chier, on a rien à dire, il se passe rien. Et là, moi, bordel, 20 minutes uniquement parler de candidature. Allez, un petit disque ce coup-ci, c'est pour de vrai. On passe à la deuxième partie et après on parlera de la radio, j'allais dire, de 3 hit combo, de comment vous dites, 3. Choué, hit combo.
Mais vous pouvez dire 3, hein, c'est vachement mieux. Quand on le lit, de toute façon, un chiffre, on peut le dire.
Ouais, mais si devant un judge, il dit, oh, tu connais le 3.
Non, mais un judge, s'il va parler, il va dire 3, parce qu'il sait pas parler anglais. Il passe son temps à jouer aux jeux vidéo, il va pas à l'école.
C'est vrai.
C'est parce qu'en français, ça fait des initiales vachement mieux, 3 hit combo.
Et là, Emery nous dira pourquoi aussi les jeux vidéo, ça rend con. Voilà. Et ça rend des gens meurtriers. Allez, un petit 10, c'est parti.
Voilà. Vas-y, t'écoutes quoi, là? C'est le dernier style?
Hein?
Vas-y, fais-moi écouter. Vas-y, fais-moi écouter, s'il te plaît. C'est le dernier scoop, là. Fais-moi écouter 2 secondes.
Mais non, putain.
Je suis pousse, papa reste une vis. J'ai vu trop de trucs atroces, la tête coincée dans la matrice. Dans le trou, pas d'actrice. Mon âme est pleine de cicatrices. Tes paupières se plissent, énergie vocifératrice. Le crew te fait des croches, pas coup de savate, ça va trop vite. Ça c'est ma nouvelle stup, attaque altruiste, anti-médiatique. Le truc est bandé comme un arc, tendu comme une catapulte. T'écoutes le groupe culte qui refuse le monde adulte. On est le fric, trou, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller. Car nous sommes l'homme d'un stup,
la vie d'anti-réactionnaire.
Stoppera les guerres sur la terre. On est le flip crew, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller. Car nous sommes l'homme d'un stup,
la vie d'anti-réactionnaire.
Le stup persévère, stoppera les guerres sur la terre.
Y'a des gens qui pensent que l'être humain il est mauvais, qu'il est méchant, qu'il changera jamais. Bref qu'il est mauvais. Si les gens pensent ça, on va droit vers la guerre. Et si on va droit vers la guerre, plus qu'à faire ses prières. Alors pense pas ça, pense pas que l'homme est mauvais. Il est bon comme moi, à part quand j'étais enfant. On décapitait les mouches, torturait les fourmis. Oui, je me vengeais sur ceux qui étaient plus petits.
On est le flic-flic-fou, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller. Car nous sommes l'homme d'un stup,
la vie d'anti-réactionnaire.
Le stup persévère, stoppera les guerres sur la terre.
On est le flic-flic-fou, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller. Car nous sommes l'homme d'un stup,
la vie d'anti-réactionnaire.
Le stup persévère, stoppera les guerres sur la terre. Les petits cris au secours, la peur pète le sort. Il est dans cet amour qui pourrait mettre tout le monde d'accord. Faut que tu t'encarres, trip à mort. Ma clique a vraiment trop de cœur. Je check les bisounours, un cocard pour les prédateurs. Tes rêves se barrent en saucisse, faudrait que ça cesse. Ouvrir le vasistas, tu ronges ton os. Pense qu'à tes fesses, seul dans la populace. Le businessman crame, prêt à tout pour de l'oseille. Le king prend le chrome, réveille le bon gars qui sommeille.
On est le flip-flip-crew, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller. Car nous sommes l'homme d'un stup,
la vie d'anti-réactionnaire.
Le stup persévère, stoppera les guerres sur la terre.
On est le flip-flip-crew, terroriste bienveillant. Les autres trucs c'est chiant, va falloir vous réveiller. Car nous sommes l'homme d'un stup,
la vie d'anti-réactionnaire.
Le stup persévère, stoppera les guerres sur la terre.
your death.
Eh ouais, yo yo.
Nous avions une conversation l'autre jour en débrief. On dit débrief hein, chez nous, ouais. On est très parisien.
Je sens que j'ai compté les points là. Et round 1, c'est parti.
Voilà.
Et il y a le brief aussi.
Il y a le brief. Et là, c'était le débrief. Et vous étiez en train d'enrouler la tête. Alors mon petit était parti, des responsabilités, vous savez ce que c'est. En plus, il boit pas, donc il était déjà rentré. Et il y avait votre créature. Et vous étiez en train de lui tourner la tête autour du compteur Linky.
Oui, c'est génial, ça, là.
Compteur intelligent.
Jean, oui, qui vous permet de mieux contrôler votre consommation.
Super.
Qui vous avertit.
3000.
Où, attention, là, il y a 3 télés d'allumés. Si vous en regardez qu'une, éteignez les 3 autres. C'est génial, ça, là.
Voyez ce sourire. J'ai trouvé un article amusant. Depuis l'avènement de ces compteurs intelligents ou compteurs statiques d'énergie, des personnes rapportent une lecture de la consommation d'énergie qui est excessive par rapport à la normale.
C'est-à-dire?
Cela a incité le professeur Leferink, je sais pas comment on dit, à déterminer si c'était vrai. Avec ses collaborateurs, l'équipe a testé 9 modèles, de compteurs électroniques. Dans cette étude, ces compteurs étaient fabriqués de 2004 à 2014. Ces compteurs intelligents étaient connectés, blablabla, et on finit par noter une consommation supérieure de 582%, mais dans d'autres, elle était inférieure à 30%. Les plus grands écarts ont été observés par des gradateurs combinés avec des lampes économiques, lampes LED étaient connectées au système. Alors pourquoi ça déconne? En fait, l'écart entre la lecture de la consommation s'explique par la conception du compteur, mais également avec l'utilisation croissante des appareils électriques qui favorisent l'économie en énergie. Dans ces appareils, la consommation de l'électricité ne suit pas une longueur d'onde parfaite, mais plutôt un pattern erratique. J'en ai parlé tout à l'heure à Emeric qui m'a dit que ça lui parlait. Les fabricants de compteurs intelligents n'ont pas pris en compte ces commutateurs intelligents dans les appareils électriques modernes. Quand les chercheurs ont démonté ces compteurs électroniques, ils ont découvert que le modèle associé à une consommation excessive contenait un enroulement de Rogowski. Oh, tu vois, imaginez. Un dispositif permettant de mesurer le courant alternatif et les modèles associés à une consommation excessivement basse contenaient un capteur à effet Hall qui mesure le champ magnétique afin de se réguler pour éviter les perturbations de l'environnement, mon bon Jean-Loup.
J'ai l'impression, qu'est-ce que vous faire chier le dimanche pour arriver à lire ce genre
de... Je bosse, mon bon Jean-Loup, vous me dites un truc. Vous là, me dites un truc, vous êtes
constipé,
vérifie.
Vous êtes constipé ces temps-ci, là.
Non, pas vraiment. Donc, du coup, alors, vous inquiétez pas, on a tout prévu.
Donc, tout ça pour dire que le professeur... dès que c'est marqué professeur, c'est vrai.
Enfin, quand il y a un nom russe en plus, ça
non, mais...
Et en plus, c'est une étude qui date quand même de 2004.
Non,
à l'époque...
Ça, je viens de le choper cette semaine.
Ouais,
ça.
Mais regardez 2004. Hein,
non.
À l'époque, où le
2004,
smartphone n'existait même pas.
Il parle de compteur fabriqué en 2014. Non, alors,
une étude
alors...
2004 et 2014.
Non,
ce que ça dit quand même, c'est que si t'as des lampes économiques, au final, ça te fait indiquer que ça te consomme plus, voilà. Alors que c'est faux.
Ah d'accord.
Et t'as plein de lampes, à basse consommation là.
Et ça,
les lampes d'avant.
Comment on s'est fait baiser la gueule aussi avec les lampes à basse consommation,
parce qu'il y aura le compteur Linky.
Non, mais qui coûte la peau des couilles, etc. Et quand c'est que l'éclairage en lui-même ou les lampes, c'est 10% de consommation
électricité
d'un ménage. C'est dérisoire en fait.
Et maintenant, au lieu d'acheter, elles sont au mercure maintenant les nouvelles.
Et en plus, elles sont pas recyclables. Enfin bref.
Non seulement elles sont pas recyclables, mais rassurez-vous, de toute façon, il y a pas 10% des gens qui mettre des ampoules dans les...
Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire avec les joules, les...
Tout ça pour vous dire que le compteur Linky...
C'est de la merde.
Ah voilà.
Bah oui. Mais bon, après...
J'ai des arguments. Vous me demandiez des arguments l'autre jour. Je vous les donne. Mais
J'ai la conscience tranquille.
J'ai une nouvelle plus drôle, justement. Ça vous concerne un peu parce que vous êtes, vous aimez bien la technologie. Vous aimiez bien le compteur Linky parce que vous croyez que le compteur Linky allait vous réveiller en disant que, comment dirais-je...
Oups, étayez votre télé, ça sert à rien, c'est génial ça.
Non.
Ça, ce serait
un dingo.
Oui, ce serait intelligent, dingo, comme dit Emeric.
Un dingo a voulu vérifier si sa femme lui était fidèle. Ça, j'ai trouvé ça dans les Vosges Matin. Alors les Vosges Matin, ils se font chier un peu dans les Vosges.
Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes constipé là.
Il habite Saint-Dié et pour savoir si sa femme le trompait, ce coup-là, il a quitté la baraque. Il a fait un petit tour, il a appelé les pompiers pour dire qu'il y avait le feu dans sa maison. Et il est reparti s'embusquer devant sa maison pour voir si sa femme sortait avec son amant. Non seulement la femme n'est pas sortie avec l'amant, mais il s'est fait choper. 20 pompiers ont été dépêchés sur place pour rien. L'homme a été placé en garde à vue, il encourt 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.
Et ça, c'est dans Vosges matin.
Voilà.
Alors, dans Kaboul après-midi, qu'est-ce que vous avez en stock?
Ah si, tiens, vous me dites toujours que j'ai des nouvelles pourries. Moi, j'ai trouvé quand même une nouvelle qui est bien cool. C'est comment on savait que les chiens, jusqu'à présent, aidaient toujours la police, ils aidaient toujours l'armée.
Et ben, ça. Et les flics.
Et les flics, police, douane. Ouais. Pour moi, le chien, effectivement, il a pas une image bien cool. Et ben, ça y est. Enfin, on a réussi à faire quelque chose de bien du chien. Parce que on a élevé, alors vous allez me dire ce que c'est, des malinois.
Oui, c'est les chiens, genre à la douane, ils adorent ça, voilà, les flics adorent ça.
Ils
berger,
s'appellent quoi. Thor et Nikios. Sauf que là, ils ont été entraînés pour repérer le cancer du sein.
Mmh, oui, j'en
et
j'en
il suffit
oui.
de faire respirer au sein, respirer au chien, pardon. C'est dur à dire, respirer au chien. Par exemple, un vêtement porté par la patiente et pouf. Bah, qu'est-ce qu'il est con. Ça, c'est votre petit. Ça, c'est votre petit. Il rigole.
Il l'encourage. C'est pour ça que je coupe le micro
du sein, oui, ça me fait rire.
En vous regardant, parce que vous avez amené un petit peu de malinois, quelque part. Et vous pouvez éventuellement détecter ce genre de problème. Et c'est vrai que c'est pas con ce que vous dites, parce que les chiens, ça peut sauver des vies. Enfin, dans le sens.
Le cancer du sein, on en meurt, genre.
On n'a jamais pensé, quand il y aura pour le cancer de la prostate, là, ça pourrait aussi être intéressant.
Et là, je dois dire que c'est un projet, qui était issu du financement. Oh, c'est dur à dire, financement participatif.
Puisqu'on parle d'animaux aussi, vous avez vu la mode ce qui s'est passé à Touari, le rhinocéros qui s'est fait. C'est bizarre, hein, quand même. C'est bizarre.
Ils l'ont dépecé.
Non, juste couper la corde.
La corde, c'est 50 000 euros le kilo.
Trois ballons.
Ils ont piqué la corde.
Trois ballons à la tête.
Ils ont piqué la corde.
Et ils ont scié la corne principale. Mais attendez, ils l'ont tué avant. Elle a pas souffert.
Moi, je suis pas sûr.
De toute façon, c'est comme. En plus, c'est de la kératine. C'est exactement à la rigueur. On prend nos ongles, on les compile, on les presse et on fait une corde de rhinocéros. C'est exactement.
Dites pas ça, ils vont venir nous arracher les ongles.
Ça, les Shintok, ils sont très doués pour ça.
Ça y est, Shintok. Alors, tiens, on parlait des cathos, on parlait de François Fillon. Il y a une nouvelle qui nous a fait frémir, ma chérie. Et moi, c'est une nouvelle piquée dans Ouest France. Oh, on en avait déjà parlé. Vous savez, c'est en Irlande, dans un espèce de... on appelait ça une maison où on recevait, genre, Sœur Marie-Madeleine, où on recevait, vous savez, les filles-mères. Et c'est une histoire totalement abominable, parce que entre les années 20 et les années... milieu des années 60...
Ouais, c'est récent, en plus, la fermeture de...
au milieu des années 60, eh bien, on accueillait les pauvres malheureuses qui avaient eu le gros malheur de se faire engraisser, engrosser. Vous rappelez, la semaine dernière, on parlait des enfants de l'amour, justement, Jean-Loup. Eh bien, les enfants de l'amour, les pauvres malheureux, ils étaient mis entre les mains de saletés de bonnes sœurs qui les maltraitaient, les nourrissaient mal. Et quand ces pauvres gosses n'avaient pas la chance d'être adoptés par une famille de riches, eh bien souvent, ils mouraient. Et on a retrouvé des dizaines
de squelettes,
de nourrissons dans les égouts, dans les jardins, etc. C'est une affaire totalement abominable et ça a été couvert par l'Église catholique. Et justement, je voudrais rebondir avec un dernier truc parce que j'ai vu que la dame qui était, je vais retrouver l'article, l'Irlandaise, c'est marrant comment l'histoire rebondit. On était en Irlande pour cette histoire de pauvre gosse et l'Irlandaise Mary Collins, membre fondatrice de la commission pontificale pour la protection des mineurs, a remis sa démission, c'est-à-dire celle qui devait enquêter sur, vous savez, les curés qui bricolent les petits. À l'origine de cette décision, la frustration éprouvée par Mary Collins, elle-même victime d'abus sexuels, envers l'absence d'une coopération de la part de plusieurs bureaux de la curie romaine. Eh bien voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Jusqu'au milieu des années 60, ces saloperies de bonnes sœurs maltraitaient les gosses et jetaient les cadavres dans les poubelles et dans les égouts. Et aujourd'hui encore,
on peut parler de Jarjet aussi, le fameux orphelinat.
L'orphelinat de la mort.
Voilà, on a retrouvé des squelettes à droite à gauche. Bon, après ces bonnes nouvelles, on va peut-être attaquer le vif du sujet. Do it their way, this.
t'es confessé au curé ces temps-ci? Ben non. À moins faut que j'y aille. Ben, j'ai raconté partout que les grignoux étaient vachement balèzes en sciences et techniques. Ah ouais, alors? Ben c'est un super gros mensonge. Sciences et techniques par les ingénieurs grignoux, voilà. Enfin, ouais, on dira ce qu'on veut, mais voilà.
Voilà, bon, bref, Grovich m'a fait peur, mais
c'est
bon,
pas Grovich chez moi.
C'est le bon jingle, là, là.
Mais c'est donc toujours plus facile de s'en prendre à moi, en fait.
Bah ouais.
Donc, nous accueillons ce soir Aymeric Lenné, coordinateur général, hein, c'est ça qu'on
merde,
dit.
Merde, arrêtez.
Bah non, mais justement,
ah, attendez-moi, ouais.
Parce que j'ai
je
pas
note.
Compris ce que c'était qu'un corps.
Moi, je vois Aymeric Lenné, coordination générale, c'est clair.
Bon, un petit peu plus de l'association 3IT. Combo, qui n'est pas une radio comme je croyais à l'origine, hein, qui est une association qui a pour vocation, si j'ai bien compris, un petit peu de développer les jeux vidéo, de casser un petit peu les préjugés qu'on peut avoir autour de ça.
C'est une manière de dire les choses, ouais. On s'intéresse aux jeux vidéo en tout cas, et plutôt sous des formes différentes que ce que le commun des mortels peut connaître.
Et donc c'est une association aussi qui est relativement ancienne quelque part. Elle a été créée en quelle année, dans quelles circonstances, et est-ce que vous en étiez à l'origine?
Sur le papier, puisque vous avez l'air d'être intéressé par les choses administratives et telles qu'elles sont.
Très
pas en blanc.
Et
au en 2006,
on parlera de pognon tout à l'heure.
Le 17 avril 2006, à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, sous le numéro non, que je ne
C'est pas grave, on vous le demandera
mais,
demain.
Ouais, depuis 2006, donc une grosse dizaine d'années, effectivement.
Alors, est-ce que je peux me permettre de vous contredire? Sur votre site, je lis depuis 2003.
Ouais, ça c'est les prémices, c'était avant l'administratif.
À la maison de quartier, la touche de Rennes, 3 hit combo organisait déjà ses ranking battles.
Des quoi?
Yes.
Ranking battles.
Ouais.
C'est quoi ça?
Oui, au fait,
l'assaut est né sur un terreau de joueurs de jeux de baston, Street Fighter pour ne pas le nommer, mais je pourrais vous sortir tout un tas de noms d'oiseaux, d'autres jeux de baston du même acabit, auxquels un certain nombre de joueurs, et moi le premier, s'adonnaient à l'époque et s'adonnent toujours aujourd'hui. Donc cette fois-ci, je refais mon calcul, 13 ans après, sur des tournois. Des tournois de jeux de baston. Hier, c'était les tournois de palais, et puis là, c'est des tournois de
jeux
de baston.
Ah, c'est-à-dire, on joue les uns contre les autres, ou on joue sur une machine, et c'est celui qui fera le meilleur score?
On joue les uns contre les autres, en un contre un. C'est les jeux de combat, je vous ai entendu parler de jeux d'arcade tout à l'heure, sont parmi les plus anciennes formes de jeux vidéo.
Ce que j'appelle les Pac-Man et les Space Invaders.
Ouais, c'est arrivé un peu après, mine de rien, les jeux de baston, mais plutôt années 80, les formes vraiment un contre un à l'écran.
Tekken,
et
trucs comme
ouais,
ça.
Etc. Tekken est arrivé après, mais parmi le premier, le plus connu, était Street Fighter, même s'il a quelques ancêtres derrière lui.
Et donc vous faites
Excusez-moi,
partie.
Excusez-moi, j'ai un petit peu bossé sur le sujet.
Donc, il va être... si j'ai bien compris, vous faisiez partie des membres fondateurs de l'association.
Tout à fait.
Ce qui explique pourquoi vous êtes coordinateur général.
C'est ça, ouais, voilà, l'ascenseur au fil des ans, tout ça, machin. Non.
On aimerait bien quand même en savoir plus sur ce qu'est un coordinateur général. On a un peu buté, on a bossé pour la Gestapo. Et donc du coup, un coordinateur général, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Non mais c'est quand même notre premier coordinateur général.
C'est vrai, mais c'est peut-être celui qui se tape les grignoux le mercredi parce que personne ne veut y aller. Quoi,
c'est
là.
Qu'on donne des ordres en général et jamais très particuliers, donc on essaye de faire en sorte que la popote tourne.
Vous êtes en train de dire que vous êtes le chef.
J'aimerais ne pas l'être.
Non mais c'est bien parce que nous on préfère accueillir le chef que les sous-fifres. C'est bien que
qu'on peut l'enlever et demander.
Nous on a bien ce qu'on appelle un directeur d'antenne. Voilà, et son boulot c'est exactement la même chose. Et donc à,
donc
2013
2003 ranking battles.
Voilà, vous rencontrez vous avez des affinités, et comment est venue l'idée de créer cette association?
C'est-à-dire qu'on 2003, époque pas si lointaine, mais suffisamment lointaine pour que, en ce temps, il était difficilement possible de jouer à des jeux vidéo en ligne sur le net.
Ça n'existait pas.
Il n'y avait pas le haut débit à l'époque. Hein.
C'était les débuts du moyen débit, on va dire ça comme ça. Et les jeux auxquels on joue viennent de l'arcade et se jouaient notamment sur des consoles de jeux vidéo qui elles-mêmes n'étaient pas reliées aux internets. Donc le seul moyen de jouer, de rencontrer d'autres joueurs, de s'améliorer, de faire plaisir sur les jeux, c'était de se déplacer, d'aller se poser sur le canapé des copains et de jouer avec eux. Mmh. Ou à plus forte raison pour rassembler un peu plus de monde si le salon est trop petit, de trouver un lieu pour se rassembler. D'où cette maison de quartier La Touche qui nous a ouvert ses portes à l'époque.
Alors du coup, là, j'avais l'impression, est-ce que là, c'est là qu'on peut rebondir sur ce concept de e-sport ? Parce que moi je disais e-sport à mon fiston qui vient, non, e-sport.
C'est comme dire un iPhone.
Est-ce que c'est là qu'on peut dire que, en fait, c'est là que vous développez le concept de base de 3Hit Combo, c'est bah, le sport de jeux vidéo, le jeu vidéo conçu comme un sport.
Ouais, ça c'est un peu une surcouche marketing qui est venue avec le temps, le e-sport. Mais effectivement, malheureusement, j'ai envie de le dire ainsi, malheureusement, on le nomme ainsi pour que ce soit compris. D'autres utilisent plus le terme jeu compétitif. Qui est quelque part plus parlant. Parce
vous préfériez ça ou vous préféreriez ça vous?
Je trouve que c'est plus juste, littéralement parlant.
C'est vrai que e-sport, moi, ça me parlait pas.
En fait, ça parle plus aux relatives jeunes générations qui suivent, qui sont déjà dans la boucle. Mais vu de l'extérieur, parler de jeux compétitifs, c'est plus juste. Parce que c'est la question de sport, à plus forte raison électronique, est largement discutable.
Et c'est là qu'on rebondit sur le Super Play, c'est ça?
Ouais, on peut aller sur ces terrains-là, ouais.
Mais on a parce même que... votre numéro de sécurité sociale. Je te courant, là.
Et je sais que votre chemise, vous l'aviez achetée en 2012.
Oh ouais, ça doit être quelque chose comme ça, ouais. On a dû me la donner en 2012.
Je me rappelle plus le nom du magasin. Ouais, ça hier soir.
On regardera l'étiquette tout à l'heure.
Donc le Super Play, c'est quoi?
Là, c'est une pratique, si j'ai pu parler de jeu compétitif, c'est une pratique performative.
Je transpire
performance. On va parler de joueurs virtuoses qui vont s'entraîner pour jouer à un jeu. Pas forcément l'idée pas dans le Super Play n'est pas de jouer contre l'autre, contre un autre joueur, mais plutôt de jouer contre la machine, jouer contre le temps ou jouer contre la difficulté du jeu pour faire la meilleure partie possible.
Contre la montre.
Ouais, ça peut être des formes de contre la montre par rapport au temps ou se mettre un niveau de difficulté très élevé, se mettre des contraintes pour terminer un jeu de la plus belle manière qui soit.
Et pas forcément un jeu de baston dans ce cas-là.
Et pas forcément un jeu de baston.
Ah, petite question qui a l'air bête. Est-ce qu'il y a des gens qui sont doués pour ça, qu'on peut être doué pour la musique, doué pour le sport, ou est-ce que ça s'apprend à jouer aux jeux vidéo, ou est-ce qu'il y a des gens qu'on naturellement.
Je vais pas rentrer sur le terrain de l'inné ou de
etc.
De gens qui auraient un don pour ça. Non, c'est de l'entraînement. C'est avant tout de l'entraînement. C'est clair et net.
Et là, vu l'évolution de la société, que les gamins, dès l'âge de 3-4 ans, ont déjà des manettes entre les mains, ça va faire qu'évoluer dans un...
Il y a certainement une logique de familiarité, d'être familier, habitué à la chose pour s'y sentir plus à l'aise. Et pourtant, certains joueurs virtuoses, autrement dit super players, sont pas forcément ceux qui y passent le plus de temps.
Mais peut-être qu'avant de rentrer justement dans toute cette polémique, est-ce qu'on peut finir de présenter 3Hit Combo
on
et
peut,
puis après, j'aimerais bien, avec votre autorisation, passer un petit clip que mon fiston, qui est joueur, qui adore effectivement,
qui est pas
ce
addict,
ma chérie également est joueuse, mais sur d'autres types de jeux. Et comment lui, il en a un peu plein d'eau qu'on présente un petit peu, vous savez, les joueurs comme d'une certaine manière. Et il m'a branché sur un truc qui s'appelle Salut les geeks SLG, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Voilà, qu'on trouve sur YouTube. Et on va peut-être s'écouter un petit dix, puis après on s'écoutera ça. Et c'est en 3 minutes 30, il résume un peu tous les clichés qu'il y a autour justement du jeu vidéo. Est-ce que ça rend dingo, etc., etc. Et puis on aimerait bien aussi avec vous, parce qu'on a largement le temps, c'est ça qui est cool, de qu'on parle de l'historique des jeux vidéo. Parce que Jean-Louis et moi, c'est vrai que même si moi je me suis bien renseigné sur l'affaire, je ne joue jamais. S'il y a un jeu, je vous dirai tout à l'heure, mais j'ai tellement honte, je vous dirai hors antenne.
Par contre, j'étais extrêmement doué au flipper et au baby-foot, surtout
ça,
à l'arrière.
Ça compte pas.
Vous voyez ce que c'est, un flipper?
Tout à fait.
Ah, mais une grosse machine.
Ce qui est génial, c'est que vous allez sûrement me parler d'une époque révolue que moi-même je n'ai pas connue. Ne le prenez pas mal. Hein,
c'est lui qui nous grille avec les invités en général.
Vous avez certainement vu des machines de jeu que je n'ai moi-même pas connues en leur temps.
C'est vrai. Dans les bars, on trouvait les fameuses grosses consoles. Ça prenait une place énorme.
Les fameuses bandes d'arcade.
Voilà, les fameuses arcades avec des fois des trucs de kung-fu. Là, j'ai arrêté. Vous avez pas.
Vous allez peut-être vous préfériez le pratiquer en direct.
C'est mieux, ouais. Allez, un petit
disque. Vous avez vu descendre Jean Suny un jour.
Un petit disque, c'est parti. Fight.
J'aurais pu parler des classiques comme ce gamin allemand qui rage devant son écran en détruire son clavier ou ce mec qui a des crises de spasme après la fermeture de son compte World of Warcraft.
Femme, elfe de la nuit, slash dance. Moi devant écran, slash masturbé.
Non, ce qui me fait marrer, c'est la représentation des gamers dans nos différents médias et vous le savez comme moi, les gens qui jouent sont souvent mal perçus. C'est peut-être le fait de s'enfermer dans l'obscurité, pourtant les moines le font, personne ne leur dit rien. En plus de ça, ils peuvent faire des LAN jour et nuit, bouffer du fromage et boire de la bière, la belle vie quoi.
Je pensais à autre chose, personne.
Ou peut-être que c'est à cause de ce langage incompréhensible.
Ok, je rush en longue, cover snipe mid s'il te plaît, et après rejoins-moi short. On va plante en A.
Mais régulièrement on fait face à un tas de clichés ignorants qui nous font bondir.
Et Mera était imprégné de ça, il regardait tous les films de guerre, les jeux de guerre.
Son profil à lui se retrouve d'ailleurs chez beaucoup d'autres grands criminels, c'est quand même des gens qui sont capables de s'enfermer pendant 3 jours chez eux pour tuer virtuellement.
Les jeux vidéo rendraient violents, antisociales et fous. Ici ce n'est qu'un exemple, mais à chaque fois on entend les mêmes bêtises sur des sujets qui ne sont pas maîtrisés. Les incidents majeurs tels que les comportements déviants ou les tueries de masse sont inévitablement mis en relation avec un jeu de guerre qu'on a trouvé dans l'appartement de l'intéressé.
Call of Duty m'ordonne de tuer.
Je me demande vraiment comment ça se passe les fouilles policières dans ces cas-là.
chef, j'ai trouvé des chatons décapités là-dedans. Il y a aussi une boîte de Call of Duty.
Bon boulot, gamin. On tient notre coupable.
Il y a aussi des magazines féminins auxquels on a découpé tous les visages.
Non, mais ça, on s'en fout. On a un jeu vidéo, on a le coupable.
Donc attention, mes amis, si vous avez chez vous des jeux vidéo violents, comme 80% d'une génération située entre 13 et 30 ans, vous risquez de perdre la boule. Alors suivez mes conseils, jetez tout ça à la poubelle, allumez votre télé, regardez les infos ou une bonne vieille télé-réalité, vous en sortirez cultivé et vif d'esprit.
Oh, mon candidat préféré va être éliminé, faut que j'envoie un SMS, gros!
Deuxième fait établi, les jeux de guerre permettent de connaître les armes. En effet, vous pourrez savoir si oui ou non on vous arnaque lors d'une transaction au marché noir. Tout le monde sait qu'un Desert Eagle vaut 800$. Vous saurez également manier une vraie arme une fois dans vos mains, car oui, toutes ces heures en compagnie de votre clavier-souris valent tous les entraînements militaires du monde, c'est bien connu.
Vous avez joué plus de 500 heures à Counter-Strike? Une place vous attend dans l'armée de terre.
Et quand il y en a plus, il y en a encore en avant pour la valse des clichés avec notre ami Maître Panda.
Jouer à GTA vous permettra de rentrer dans un gang portoricain.
Grâce à Minecraft, le bagne et ses corvées n'auront plus de secrets pour vous. Skyrim vous rendra parano et vous regarderez sans cesse le ciel à la recherche de dragons.
Vous sauterez de 40 mètres dans du foin après une partie d'Assassin's Creed.
League of Legends va causer à votre doigt une tendinite à force de cliquer.
World of Warcraft va vous couper de toute vie sociale.
Et Starcraft 2 va provoquer chez vous une peur profonde des Coréens.
Opa Gamenstein!
C'est pas ma faute, c'est Battlefield. Gardons tout de même en tête qu'à la fin des années 90, nos médias nous appelaient à nous méfier des jeux de rôle et des rôlistes.
Des jeunes s'évadant dans un monde fantaisiste, peuplé d'elfes, de nains et de légendes. Votre enfant est peut-être déjà en danger.
Oh là là, je suis en danger.
10 ans plus tard, Le Seigneur des Anneaux sortait au cinéma. Si ça, c'est pas une victoire de Satan. Donc si la folie n'est pas provoquée par les jeux vidéo, d'où vient-elle, me direz-vous? Elle a toujours été là, il est juste plus simple de pointer du doigt un coupable plutôt que se rendre compte qu'un enfant, un parent ou un ami est passé du côté obscur. Dans les années 40, on aura accusé le rock'n'roll. En 2013, c'est un FPS. On donne aux gens une raison, une croyance aussi irrationnelle soit-elle, parce que sans ça, la peur s'installe, la peur que tout le monde est capable du pire.
C'est trop sérieux ton truc, je vais jouer à regarder mes mains.
Quant à l'apport de la violence pour nos chères petites têtes blondes, mais bien sûr qu'elle fait partie des jeux vidéo, tout comme le reste de notre culture, films, séries, télévision, sport et j'en passe. Mais le support vidéoludique apporte la même chose que le reste, émotion, rire, larmes, bref, l'essence de l'humanité, le pire et le meilleur. Seulement c'est son jeune âge et la peur de l'inconnu qu'il suscite chez des personnes qui ne comprennent pas et n'ont pas envie de comprendre, donc je finirai cette tirade en vous donnant raison. Oui, les jeux vidéo me rendent violent, mais seulement une partie de mon corps réagit, le clic droit de ma souris.
Oh.
Voilà, donc extrait de
j'aime, non, c'est
salut les geeks.
Salut les geeks,
que je dois à bah à mon fiston, mais
voilà,
mais
vous avez des conseillers d'excellents, enfin
des conseillers techniques.
Ouais. Et donc c'est un peu un ramassis de préjugés que beaucoup de gens, une majorité on va dire de vieux entre guillemets ou de personnes de plus de 40 ans, de 50 ans ont, si j'ai bien compris, c'est on doit vous faire ce genre
sur
de réflexion.
Le jeu vidéo, qu'est-ce que vous retenez de vous connaissiez cette vidéo?
Je le disais dans l'entre-deux là, ouais, je connaissais pas cette vidéo, mais le je connaissais deux noms, le youtubeur qu'on a entendu là. Donc ouais, effectivement, c'est le bon condensé de tous les préjugés en la matière. Tout va bien. Et peut-être que le plus inquiétant, c'est que c'est pas qu'une histoire de vieux radoteur qui aurait ces a priori là, mais que c'est parfois dans les bouches de plus jeunes. Et c'est donc pas lui évidemment qui en fait un pastiche là, mais de certains qui peuvent s'en convaincre.
Tout à fait, parce que comme on voit d'ailleurs lors de l'affaire Mera, les auditeurs n'ont pas pu le voir, parce que mais s'ils vont sur SLG,
bon, on laissera le lien sur le blog,
ils verront une nana qui est bien plus jeune que Jean-Loup et moi, et qui est là, qui explique doctement qu'effectivement des jeunes qui s'enferment dans leur appartement pendant plusieurs heures à jouer des jeux vidéo sont susceptibles effectivement de basculer dans le radicalisme islamique.
Voilà, et pourquoi c'est répété doctement, comme vous le dites, c'est simplement répété parce que c'est le raccourci facile et très facile pour expliquer voilà, une cause, un effet. Oh, bah tiens, on va trouver le coupable, c'est facile, c'est le jeu vidéo, hier c'était le rock, avant c'était la télé, j'en sais rien. Ah,
alors, est-ce que c'est pas justement l'objectif de votre association que de tordre le cou à ces préjugés à travers les manifestations que vous organisez, à travers les contacts que vous, justement, parce qu'on dit que c'est un truc d'autiste, pas tout à fait, alors je tiens à m'excuser auprès des autistes, c'est pas ce que je voulais dire, on dit que c'est un truc de gens renfermés.
C'est un ralliement à Fillon, là.
Excusez-moi. Un truc de renfermé sur eux-mêmes. Japonais ont un nom pour ça. On n'aura pas de procès là-dessus. Il faudra qu'on vérifie comment ça s'appelle. Et que du coup, je dois vous avouer d'ailleurs que en tant que vieux con, c'est ça qui m'a surpris le plus dans votre démarche quand j'ai étudié votre site. C'est-à-dire, tiens, des gens qui jouent sur leur canapé à des jeux vidéo, qui vont se faire chier à aller dans un local avec plein de vieux barbus. Je dis ça pour vous, hein. Mais bon, ça, je pourrais dire ça pour moi également. Mais, et en fait, il y a des gens qui viennent, et, ouais, et c'est là où justement le jeu vidéo sort un petit peu de cette histoire de ce préjugé qu'on peut avoir, Jean-Loup et moi.
Donc, dissociabilité, en fait. Là.
Ça devient pas du, bah, du e-sport, comme on dit à la mode, quoi.
Bah, c'est une histoire de gens avant tout, autour des jeux. C'est ce qui nous intéresse, c'est pas tant les jeux en soi. C'est un peu gros ce que je dis là, bien sûr que les jeux dans ce qu'ils peuvent être, dans la diversité des créations, dans les recoins où ça va chercher, est-ce que ça peut dire, c'est intéressant. Ce qui nous intéresse surtout et entre autres, c'est ce qu'en font les gens. Mmh. Où et quand et comment ils se voient, ce qu'ils en disent, pourquoi ils jouent, avec qui ils jouent. Et là, on se rend compte que si on enlève le mot vidéo, le jeu vidéo, c'est avant tout une activité sociale avec les autres, dans tout ce que ça peut provoquer.
Mmh. Et du coup, Jean-Loup, peut-être.
Non, et vous intervenez même auprès des scolaires, si j'ai bien compris.
Bien sûr.
Pourquoi, pour faire de la prévention par rapport à certaines dérives, ou pour expliquer que ce qu'ils font, c'est pas mal quelque part.
On va rarement utiliser le mot, enfin, j'aime pas trop utiliser le mot prévention ou utiliser tous les un peu tout l'arsenal de jargon péjoratif qui peut y avoir autour. C'est-à-dire que si on vient avec déjà à la bouche le mot prévention en proposant un temps, une expérience de jeu, c'est qu'a priori il y a déjà un a priori négatif sur la chose. Alors que si on vient provoquer un temps de jeu, il va se passer du bon comme peut-être du mauvais, mais en tout cas on va en parler ensemble. Et oui, on va sûrement, bien sûr, d'une certaine manière, prévenir je ne sais quel possible. Mais je ne veux même pas parler de ça.
Alors, je voudrais quand même.
Moi, je voudrais en parler. En fait, c'est quoi votre message de précaution, on va dire, que vous essayez de diffuser auprès des jeunes?
Est-ce qu'il y a un truc qu'on pourrait retenir? Il y a quand même un truc qui peut. Moi, ce qui me fait chier, honnêtement, parce que moi, je vis avec des joueurs. Ce qui me fait chier, c'est ce côté un petit peu. Mais je le respecte, mais aussi par contre un petit peu, effectivement, enfermement. Et je leur ai posé la question, d'ailleurs, parce que ce sont des gens de mon entourage, et quels seraient les défauts justement qu'ils relèveraient sur ce truc-là. C'est le premier mot qui est venu, c'est chronophage et addictif. Il y a quand même un côté chronophage et addictif quand même dans le jeu vidéo, comme dans toute passion, je dirais. Mais c'est une passion qui est hyper répandue.
Que dire ? Quel autre support d'expression ne peut pas être chronophage et ou alors addictif ? J'ai envie d'évacuer le mot parce que du côté d'un point de vue scientifique, médical, le mot addiction a été évacué du jeu vidéo.
Ah, bah alors, ils disaient ça, mon entourage disait ça, addictif, parce qu'il y avait un petit côté addictif, parce que c'était extrêmement ludique.
Ouais.
Et il y avait un degré de facilité qui permettait de rentrer dans le jeu, quel que soit le jeu. Et que c'est en cela qu'il devenait addictif, parce que, on peut progresser, donc ça vous en donne envie d'aller encore plus loin, etc.
Ça peut être bien sûr très prenant et, encore heureux. Enfin, le jeu, s'il y a bien une activité humaine qui peut être prenante et pendant laquelle on fait abstraction du temps qui passe et des interactions qu'on a avec les autres parce qu'on peut se le permettre, parce que c'est du jeu, bah oui, c'est le jeu, effectivement. Le mot addiction, faut juste faire gaffe quand on l'utilise, parce qu'a priori on parle d'addiction quand un besoin rencontre un produit. Et on peut pas considérer que le jeu vidéo, c'est un produit.
C'est quand même un produit commercial.
Oui, mais c'est pas un produit chimique tel que la nicotine ou autre.
La caféine ou la THC, etc. D'accord, ouais. Mais alors, pareil, je vais répéter. Est-ce qu'on peut être addict au jeu? Alors, est-ce que ça existe ou est-ce que c'est
nécessairement dire non? On ne peut pas être addict au jeu. En revanche, on peut consacrer une grosse partie de son temps, être très pris par cette activité parce qu'elle est prenante, elle est bonne entre guillemets. Mmh. J'utilise le mot bon. C'est bon de jouer. Le jeu, c'est du plaisir avant tout, et c'est bien. Effectivement, quand ça commence à empiéter sur le reste de nos activités, notamment de nos relations sociales, c'est qu'il y a peut-être un problème. Est-ce que le problème, c'est le jeu vidéo ou
la personne
ou le manque qu'on a soi, et on aurait pu rencontrer aussi bien le jeu vidéo que une clope, un verre de bière ou
drogue,
je ne sais quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Voilà.
Ah, c'est-à-dire que si par exemple dans un environnement social une personne est amenée à jouer, si elle est addictive entre guillemets au jeu, c'est peut-être aussi parce qu'elle a un autre manque par ailleurs et qui pourrait être comblé par autre chose que le jeu si on lui en offrait la possibilité quelque part.
Et tout à fait. Et si Donc quand tu vous êtes venu me chercher sur le terrain de l'éducation et de l'usage du jeu appliqué à l'éducation ou de pratiquer du jeu auprès de scolaires ou de jeunes ou de moins jeunes, parce que il ne faut pas croire qu'on s'intéresse aux pratiques de jeu que chez les jeunes, il est question là de sensibilisation et d'éducation. Si on amène les gens à c'est pas leur montrer les bonnes choses, parce que vous avez parlé de musique, il n'est pas question d'enseigner à quelqu'un quelle est la bonne et la mauvaise musique, mais de lui apprendre à décrypter un peu ce qu'il existe dans le champ de la musique pour se forger ses propres armes et ses goûts musicaux. Et sur le terrain du jeu vidéo, ben, on pourrait parler de la même chose. Si on est dans un néant éducatif en termes d'éducation à l'image, aux médias et à ce qu'il existe sur ces supports-là, ouais, il y a un peu de chance pour que les gens se tournent vers le produit au sens commercial que les médias lui mettent sous les yeux et qui est pas forcément le meilleur.
Est-ce qu'il, du coup, plutôt que de faire des gros débats autour du jeu vidéo, il suffirait que les parents disent aux gamins, tiens, pouf, ton ordi, je le débranche, point barre, et puis terminé, au revoir. Et on n'aurait pas forcément des gamins qui arrivent comme des zombies à l'école parce qu'ils ont joué jusqu'à 6h du matin.
Oui, ce qui est très courant, en fait.
Je pense qu'il y a d'autres moyens de faire que de débrancher l'ordi en parlant avec ses enfants.
Non, mais je veux dire, au cas où, effectivement, attendez, j'ai été môme. Moi, ma mère me dit, oh, mon chéri. Enfin, j'avais pas les moyens à l'époque. Nous, on avait le général de Gaulle en noir et blanc, hein, vous voyez, sur une chaîne. Donc, c'était quand même une autre époque. Mais, effectivement, moi, j'aurais été môme. On me dit, tu couperas bien ton ordinateur? Oui, maman. Honnêtement, est-ce que vous auriez coupé votre ordinateur? Soyez honnête.
Ouais. Bah, on le coupe sur le moment et puis on le rallume une petite demi-heure après.
Quand maman ronfle. Voilà. Non,
mais moi, pour intervenir par rapport à ça, moi, quand vous étiez petit, quand vos parents vous disaient d'arrêter de lire votre livre, est-ce que vous rallumiez pas la petite frontale?
Bien sûr que oui.
C'est
exactement pareil.
C'est un livre, monsieur.
Et un livre, apparemment, on a le droit de lire. C'est-à-dire que quelqu'un qui va s'enfermer juste pour lire, ça sera moins grave que quelqu'un qui va s'enfermer juste pour jouer.
Et c'est vrai que, quand j'étais ado, je me suis surpris à lire jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. À l'époque, si j'avais une console, j'aurais peut-être joué à la console.
Moi, je mettais sous les draps la lampe pour pouvoir lire, parce qu'effectivement, il n'y avait pas
de problème. Et à ceci, je rajouterais, avant d'être capable de lire vous-même votre livre sous la couette, qui vous a lu votre premier livre?
Responsabilité des parents.
Et autrement dit, qui vous a fait jouer à votre premier jeu vidéo et lequel était-ce?
Donc en clair, effectivement, moi le fait que j'ai joué à des jeux vidéo avec mon fiston, je me rappelle à l'époque, je le dérouillais la gueule. C'était, vous savez, des petites bagnoles avec un petit renard, comment que ça s'appelle,
un petit renard. Écoute.
Pardon? Ouais.
C'est Crash Bandicoot.
Crash Bandicoot, j'adorais ça. J'adorais, je jouais à Crash Bandicoot. Là, j'arrivais encore à dérouiller, je dérouillais moins, dérouillais plus.
Tu es.
Je n'ai plus dérouillé du tout. Puis il m'a dit, écoute papa, Crash Bandicoot, c'est un peu gentil, mais bon. Et j'ai arrêté de jouer. Mais effectivement, c'est moi le premier qui, je m'éclatais bien. C'était rigolo.
Et une petite question complètement conne pour rebondir toujours sur ce qu'on a entendu tout à l'heure. Est-ce que les jeux vidéo ou certains jeux vidéo ne banalisent pas la violence quelque part?
Ouais, c'est la question qui est posée aussi.
Allez, frapper quelqu'un, c'est, je sais pas, j'ai des conneries de vieux con ou il y a une réalité derrière?
Ouais.
Ah, je ne répondrai pas. C'est une très bonne question. Je répondrai pas. Certains, on a eu cette discussion dernièrement. Je vais citer un jeu que certains peut-être connaissent qui s'appelle Postal, qui est une forme d'exutoire d'ultra-violence produit sciemment par un studio qui avait l'intention de questionner ce rapport au jeu qui met la violence en avant. Seulement, le jeu a été traité comme simplement un jeu violent. Et si je vous fais un parallèle avec... Mon parallèle va peut-être être exagéré pour ceux qui connaissent Postal en termes de qui l'a réalisé, mais si je vous fais un parallèle avec Orange Mécanique, est-ce que Orange Mécanique tout un chacun à reproduire ce qui se passe dans le film? Ou au contraire, est-ce qu'il questionne la chose et la critique vertement au contraire?
Oui, c'est vrai que Orange Mécanique qui est une référence justement
de l'ultra-violence.
De l'ultra-violence, et puis comment
alors du coup... comment effectivement, comme disait Jean-Loup, je sais pas moi si la violence des jeux vidéo peut entraîner la violence chez les personnes.
Ou est-ce qu'il y a un terrain
prédisposé?
Mais
je dirais quand même qu'il y a des jeux vidéo que je trouve un peu plus zone, quoi, enfin glauque, dans la mesure où t'es en bagnole, tu peux shooter du piéton, tu butes tout le monde, tu rentres. J'ai vu mon fiston jouer à ce jeu-là. Pouf, pouf. Alors après, c'est un peu hypocrite. Je préfère le voir jouer, vous savez, avec ses jeux de stratégie, où là, pouf, la Légion
romaine. On va tuer du boche, là. Là, non, c'est pas normal.
Ça, c'est la Légion romaine, vous savez, c'est carrément, alors là, vous êtes à une autre échelle. Et du coup, voilà, c'est civilisation. Vous êtes à une autre échelle, mais ça reste quand même de la baston, mais ça paraît au moins de la baston,
plus
on va dire. Historique, enfin c'est un peu hypocrite ce que je veux dire.
En fait, c'est la question est bonne et elle est piège quelque part parce que on peut pas y répondre par simplement un oui ou un non.
J'imagine
c'est
bien.
X degré et curseur on vous de la même pas manière ça que sur les autres.
C'est pour ça qu'on vous invite.
C'est,
qu'on donne
c'est
le temps
super intéressant parce que on va souvent avoir tendance à cataloguer comme violent un jeu qui a une violence premier degré, purement visuelle.
Quand tu shootes un bonhomme
effusion
en bagnole.
Sang, shoot, écraser quelqu'un en bagnole, etc. Alors que d'autres jeux, tout comme dans le film, dans le livre ou autre, vont être sur une forme de violence symbolique, de violence morale.
Institutionnelle, quand c'est une armée qui se bat contre une autre armée, on a le droit.
Voilà. Ouais, ou parfois vont tenir dans le fond un propos voilà moral politique complètement dégueulasse, mais à l'écran ça semble tout ce qu'il y a de plus choupi.
Et alors en fait, justement, non. C'est marrant parce que j'avais noté comme ça pendant que vous parliez philosophie des jeux. Est-ce que je sais pas, il y a une espèce de philosophie qui tourne autour des jeux. Est-ce qu'il y a
des valeurs?
Est-ce qu'il y a des valeurs qu'on doit respecter ou c'est le Far West?
Je ne vois pas comment prendre la question. Ça me fait alors comment ça.
Est-ce qu'il y a un respect entre joueurs
ou déontologie peut-être ou philosophie déontologie.
S'il y en a une, elle n'est pas propre aux jeux vidéo. On va retrouver les valeurs du jeu en général avec le bon, le mauvais joueur, le tricheur, celui qui est réglo, le est-ce que je joue pour être dans la compétition et je vais dénigrer celui qui a perdu, est-ce que je joue pour le simple plaisir de jouer, être bon perdant, etc., etc. On va retrouver toutes ces choses-là.
Comme dans les jeux de société classiques, quelque
comme
part.
Comme dans tout jeu.
Ouais, quoi, voilà.
Mais comme dans les premiers jeux où on chamaille quand on est gosse, où on joue au ballon.
Les parties de Monopoly qu'on finit jamais. Et parce que les billets volent.
Et il y a toutes ces règles qui ne sont pas écrites dans les règles, en l'occurrence, mais que si on ne les respecte pas, ça finit mal, quoi. C'est plus du jeu.
On s'écoute ta petite liste et après j'ai encore une question con à vous poser. Oh là là, j'adore les questions cons.
Je vais taper souffrir en silence. La vie est plus opaque qu'une. jerrycans. Le ciel prend la teinte du feu, j'ai du crépuscule dans les yeux et c'est la nuit qui m'accompagne. Je m'offre quelques embardés, la nuit aime bien nous chalouper et nous jeter du vague à l'âme. Un bref regard sur le passé de la route où tu m'as quitté, au loin je vois danser les flammes.
Et peut-être samedi soir je vais aller danser sur la route des mauvais présages.
Toujours en compagnie d'Emeric, l'aîné de l'association 3 Hit Combo, et on parle justement
De la coordination générale.
De coordinateur général, on sait pourquoi.
Maintenant, là, alors, moi j'aimerais revenir un petit peu sur le sport. Alors, revenons un petit peu sur des notations, on a le temps en plus. Quoi que je me méfie, parce que l'aiguille, quand elle a passé la demi, contrairement aux lois de la physique, elle va plus vite en remontant qu'en descendant. Alors j'aimerais qu'on parle vite, parce que donc d'un secteur et puis des activités que vous menez, à savoir ces espèces de compétitions officielles et de tout ce qui se déroule, des activités que vous menez. Comment que ça se passe exactement ?
Sur la partie compétition, il y a un peu deux portes d'entrée. Il y a pour le fun, et ça c'est des joueurs qui se retrouvent et qui jouent du jeu vidéo comme on ferait la partie de foot sur la plage.
D'accord.
Il y a un peu moins pour le fun, on est un peu plus proche du quoi, de quelle comparaison là con je vais faire du club de foot le week-end ou et ça c'est une fois par mois toujours à cette maison de quartier La Touche où des joueurs se retrouvent effectivement dans une forme compétitive avec des points gagnés à chaque fois, etc., etc.
Il y a une fédération officielle ?
Absolument pas. Que dalle.
Ah, c'est dommage, il n'y a pas une fédération.
Qu'est-ce que vous attendez pour faire une fédération officielle, là?
Les fédérations sont apparues sur des jeux plus récents. Le sport électronique, d'ailleurs, cette étiquette a été mise sur des jeux, sur d'autres jeux ordinateurs qui sont apparus plutôt dans les années 90.
Quel style?
Vous parliez tout à l'heure de jeux où on dégomme tout le monde avec du flingue. Ouais, Counter-Strike. Oh. Mais par la suite, League of Legends, Dota, des jeux de stratégie-action qui sont apparus un peu plus tard. Et sur lesquels on a plus vite mis le mot sport électronique, parce que je vais en arriver au troisième point après le match de foot du dimanche, et je reparlerai aussi du pourquoi dans le jeu de baston ça a un peu plus de mal entre guillemets à s'organiser. On va faire un peu de socio. C'est que le troisième pan du sport électronique, là, on n'est plus en train de faire mémus sur la plage ou de jouer avec le club de foot le dimanche, mais on est dans le sport médiatisé. Avec du public en face, avec des sponsors, avec de la pub, avec des gros prix à gagner. Et là, le mot sport prend son sens, le sens qu'il a pu prendre au cours du XXe siècle, dès lors qu'on le met dans un stade avec des dizaines de milliers de spectateurs.
C'est de la compétition.
Et des sponsors, et des enjeux, et une médiatisation de la chose.
Donc il y a des gens qui vivent, qui sont des professionnels des jeux vidéo.
Peu, il y en a, mais oui, il y en a. Il y en a de plus en plus, en tout cas.
Est-ce que vous, à Rennes, avec 3 Hit Combo, vous participez à ce mouvement? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des gens qui participent à vos activités et qui font des compétitions nationales, internationales, régionales, je sais pas?
Ouais, ça vient de plus en plus. Le 11 mars prochain est organisé, alors vous allez voir dans quel lieu, où et comment est organisée la chose, sur Street Fighter, en l'occurrence.
Et ça tombe bien, le 11 mars, c'est dimanche?
Ouais.
Eh ben voilà, c'est pour ça qu'on vous a invité, la date était parfaite.
Au Grand Rex, à Paris, se déroule la Coupe de France de Street Fighter V. Hors fédération, en dehors de tout circuit officiel, c'est un one-shot, un événement qui se déroule un week-end. Des équipes ont été constituées dans des villes en France avec un certain format, etc. Et ça se déroule, mais hors fédé. Je vais dire pourquoi, côté jeux vidéo, en fait, côté jeux de combat, les circuits qui sont faits sont des circuits organisés par les éditeurs, par l'éditeur du jeu.
D'accord, ça vient pas des joueurs, en fait,
ce qui vient des joueurs, ce sont ces autres circuits qui sont un peu plus proches du terrain et plus proches de joueurs passionnés qui s'en fichent un peu au final d'être fédérés. Ils ont envie de pratiquer leur le jeu qui le ou les jeux qu'ils aiment du côté des jeux de combat dans
mais
la diversité.
Ça paraît comme un milieu un petit peu fermé hein, dans ce cas si comment je fais pour vous bon il y a trois hits combo mais comment je fais pour contacter justement ces groupes de joueurs
effectivement le travers qui pourrait y avoir c'est qu'il y a il peut y avoir un petit côté d'élite initiée autant une logique de fédération, ça peut sembler un peu monolithique, organisé, etc., etc. Mais mine de rien, ça peut donner lieu à des logiques de le petit club du bled du coin avec l'entraîneur voir le club loisir, mais où on peut accueillir les enfants, ils vont être encadrés, ils vont apprendre à jouer, etc.
Ah. Est-ce que dans
il y a des noms de stars déjà dans le jeu vidéo?
Ouais.
Des Français, c'est quoi la moyenne d'âge des stars?
C'est quelle nationalité des gens?
Si je reste sur les jeux de combat qui sont les jeux pratiqués en sport électronique du côté de Troy de Combo, parce qu'il y a pléthore d'autres jeux en fait. C'est comme si dans le sport en général, on mettait tous les sports, le foot, le badminton, le tennis et le volleyball dans le même sport.
Dans un seul, d'accord.
Donc nous, on est sur le jeu de combat, qui est une discipline, je vais le dire, au sein du sport électronique. Et ouais, il y a des stars. Il y a un Français qui avait gagné une compétition mondiale il y a quelques années, qui s'appelle Olivier E, de son pseudonyme Luffy. Parce que les joueurs ont des pseudonymes de joueurs, ça remonte aussi aux bornes d'arcade où on mettait son nom sur la borne généralement.
Vous avez un pseudo?
Mon vieux pseudonyme, je suis obligé de répondre à cette question. Il tenait en trois lettres puisque sur les bornes d'arcade il faut mettre trois lettres généralement pour mettre son nom et ce sont les trois lettres S, R et G. Je n'irai pas plus loin dans l'explication.
Oh, ça peut être AGI, en deux lettres.
Je note.
Généralement, c'était les initiales de joueurs ou autres acronymes.
On parle de fédération. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont plus organisés, qui ont des fédérations de joueurs, ou est-ce que chacun se démerde dans son coin, là,
Ouais, il y en a qui sont plus organisés. On va parler, si c'est pas, quand j'entends le mot fédération,
fédérer pour moi c'est réunir etc.
Donc il y a peu de pays qui ont une fédération au sens organe presque reconnu d'État avec le principe j'en sais rien jeunesse et sport etc ministère derrière il y en a peu de la sorte. On va plus être sur des ligues soit entre joueurs et organisateurs donc avec un côté encore associatif plutôt collectif ou bien on va être sur des circuits. Malheureusement, je vais le dire commerciaux parce que initiés par des éditeurs. Mais ouais, il y a des pays qui ont pris largement les devants. La Corée est un des premiers pays à voir bien.
La Corée du Nord.
Ouais, c'est tout à fait. Ouais, le circuit e-sportif en Corée du Nord est relativement méconnu, mais développé depuis.
Sûrement développé. Il y a un potentiel.
Petite ironie, ouais, Corée du Sud, ils sont bons partout en fait. Ouais. En hip-hop, ils sont champions du monde.
Ouais,
ils ont été
parmi les premiers à justement médiatiser la chose, amener la chose à la télé, faire de la fédé ou de la ligue reconnue nationalement.
Je sais plus avec qui je parlais parce que je parlais avec des gens.
Bon, vous arrêtez pas pour parler.
Et il me dit, je ne comprends pas qu'on puisse comment assister à des matchs de justement des matchs de compétition de jeu quand on ne joue pas.
Ouais. Alors je pourrais dire la même chose parce que autant sur certains types de jeux et vous voyez Street Fighter que l'on peut faire jouer notamment lors du festival qu'on organise à Rennes qui est le Stunfest, on va retrouver dans les gradins du Liberté face à une finale Street Fighter des gens qui n'y captent rien. Pour certains, qui sont pas joueurs, où ils y captent quasiment rien. Mais à l'écran, il y a deux loustiques qui se tapent dessus, virtuellement, et on comprend ça. Il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour capter. Certains autres jeux, pratiqués en sport électronique, j'y capte rien, moi-même.
Ils sont trop complexes.
Et je ne prends aucun plaisir à les regarder. Donc, voilà. X poids, X mesure. Et je pense que dans certains sports, autres sports plus connus, il y en a qui sont beaucoup plus lisibles que d'autres et on va prendre du plaisir à les regarder. Et certains, les règles sont trop complexes et on se fait chier, quoi.
Et vous parlez de manifestations, je sais plus comment vous l'avez.
Le Stunfest.
Stunfest. Ouais. Au Liberté, vous parliez du Liberté, mais le Liberté. Étage ou le Liberté?
Tout.
C'est-à-dire qu'il y a un putain de monde qui vient quand même.
Ouais, on a fini par envahir le Liberté sympathiquement, j'ai envie de dire.
C'est dingue. Pour moi,
toute une diversité de formes. Vous m'avez questionné tout à l'heure sur le Super Play juste avant sport électronique, mais sur ce temps-là, on propose autant de la conférence que du concert que du jeu à jouer pour le fun, etc., etc.
Et ça se déroule une fois par an.
Une fois par an, 2017 est une année particulière, on fait une pause liée à une crise de croissance du festival qui a pris une telle ampleur que On souffle un peu avant de continuer.
2016, c'était combien de personnes? Parce que si vous remplissez de liberté, c'est quand même quelques milliers de personnes.
Ouais, 2016 sur 3 jours, c'était 12 000
festivaliers. 12 000!
Vous êtes riche!
Ouais, c'est ça, ouais. Et non, mais
c'est vrai que, enfin, moi qui suis hors milieu, oui, 12 000 personnes, je suis zébédéné, comme on dit chez moi.
On s'écoute un petit disque, ça?
Oui, on s'écoute un petit disque.
Moi, j'aimerais qu'on revienne, puisqu'on est toujours, et maintenant, l'aiguille va aller très, très vite. On est toujours en compagnie de Aymeric Lenné, coordination générale. C'est notre premier coordinateur général. Excusez-nous, on va un petit peu en user et en abuser, mais c'est quand même pas tous les jours. Et donc, du coup.
De l'association 3 Hit Combo.
Dans l'association 3 Hit Combo, il y a les matchs, on en a déjà un petit peu parlé, et j'aimerais qu'on n'oublie pas qu'on parle de la création. J'ai lu sur votre site que 3 Hit Combo considère le jeu vidéo comme un média, un objet culturel à part entière, et non seulement comme un objet de loisir, et à travers Global Game Jam, ouais, vous proposez un concept que je trouve fort original, c'est-à-dire que dans un temps déterminé, vous allez demander à des musiciens, des informaticiens, je suppose, et puis des gamers, sans doute, de fabriquer un jeu de manière expérimentale qui puisse tenir la route, et le jeu, le meilleur jeu, je suppose, gagne, c'est ça?
C'est presque ça, sauf qu'il n'y a pas de gagnant.
Il n'y a pas de gagnant.
Il ne sera pas édité, le jeu, ou?
Alors, comment ça se passe, alors, du coup? Alors, parlez-nous un petit peu de la création, c'est un petit peu ce que vous revendiquez aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement des joueurs passifs, on peut créer aussi.
Tout à fait. Bah, pour jouer à quelque chose, a priori, il faut qu'il y ait un créateur derrière. Et ce principe de jam, on est du côté de la création amateur, ce qu'on essaye de favoriser, nous, dans des temps d'échange de pratiques entre les personnes et d'ateliers. Et donc, une game jam, ouais, c'est un format. Classiquement, le format, c'est 48 heures, un thème, et on crée du jeu. A priori, en équipe, généralement, 2, 3, 4, 5 personnes. Et Global Game Jam, c'est une forme de game jam qui a lieu une fois dans l'année au mois de janvier, qui est mondiale. C'est-à-dire que dans le monde entier, il va y avoir des milliers de participants dans des centaines de lieux de jam.
Vous avez participé cette année?
On l'a organisé pour la septième année consécutive au Jardin Moderne. fin janvier là, et le thème de cette année était waves.
Les vagues,
les ondes, toute interprétation qu'on peut faire du mot waves.
Et il y avait personne, non, 3000 personnes
là. Non, là c'est une cinquantaine de participants pour une douzaine de jeux qui sont tous diffusés, donc édités d'une certaine manière sur le site globalgamejam.org.
Alors une question con à vous poser, c'est comment on crée un jeu? Il faut être informaticien et taper des lignes de code ou les choses sont plus simples?
Non, et Renan, tous les ans on essaye de communiquer sur le fait qu'il ne faut surtout pas croire qu'il faille être codeur, informaticien, technicien pour participer. C'est possiblement nécessaire, mais
oui,
pas
justement,
que...
ça peut être le fond de ma question.
Bah ouais,
comment on fait un jeu?
Faut une idée.
D'accord.
Ça y est, les grignoux
qui
reçoivent.
C'est pas forcément un codeur qui va avoir l'idée. Et savoir écrire cette idée, la coucher sur papier ou l'exprimer aux autres.
Ça devient un scénario comme un livre.
Ouais, faut ensuite l'écrire, la scénariser. Là, je peux utiliser des mots tels que storyboard, tels que design, s'il y a des formes ou des objets à mettre en œuvre. Et puis, sur un temps de game jam, on essaie aussi de décroter les yeux sur le fait qu'un jeu vidéo, c'est pas forcément sur un écran avec une manette à la main. Un jeu, en 2017, ça peut être autant du papier, des pions, des cartes, avec un écran et une manette ou autre contrôleur. Peut-être, mais pas forcément.
Ah, donc vous parlez d'un scénario et vous parliez aussi d'un codeur. Donc c'est quelqu'un qui code.
Ouais.
C'est quoi un codeur? Alors, et lui, c'est lui qui tape toutes les lignes.
Ouais, il va être en charge de transcrire les mécanismes de jeu. Quand on parle d'un jeu, on va parler de gameplay. Le gameplay, en anglais, en fait, les Anglais sont plus forts que nous sur le jeu. Nous, on a que le mot jeu et jouer. Mmh. Et en anglais, il y a le game. Le game, c'est plutôt le côté, la mécanique des choses. Le jeu en tant qu'objet et sa mécanique. Et le play, c'est l'acte de jouer.
Ça veut dire que nous, nos deux techniciens, là, concrètement, ils pourraient faire ça si c'était pas deux grosses loches.
Oh, bah, on peut faire,
ils pourraient, bien sûr, vous savez coder.
Nous cinq ici,
ils savent coder.
Mais nous, on a les idées.
On
pourrait imaginer que
après, il faut nous payer, nous, on coûte cher.
En 48 heures, vous arrivez quand même à produire un produit, on va dire, expérimental, quand même.
Ouais, carrément.
Et alors, même éditable.
Vous payez pour 48 heures, ça rend jambon de la bière, et puis voilà.
Une bise et au lit. Expérimental, faut savoir ce que ça veut dire dans le langage de codeur.
Alors, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'on peut se permettre un peu tout ce qu'on veut.
On peut jouer avec.
C'est mieux pour ceux qui l'ont fait de se dire que c'est cool, ça marche. Des fois il y a échec et ça marche pas, mais c'est pas grave. On boit un coup avec les copains à la fin quand même. C'est pour ça que nous en tout cas on n'y met pas de logique de gagnant-perdant et qui a fait le meilleur jeu. L'important c'est de participer.
Moi ça m'impressionne un peu ce que vous dites quand même, parce que ça veut dire il faut des personnages, faut dessiner des personnages, faut des dessinateurs.
C'est pas grave si le dessin est foireux et qu'on sait pas vraiment bien dessiner, du moment qu'on arrive à exprimer ce qu'on avait à dire, même si on n'est pas un dessinateur hors pair.
Dans une équipe, est-ce que vous avez participé à ce genre de compétition?
Pas en tant que participant créateur de jeux, j'ai animé des ateliers de création de jeux avec des kids notamment, parce que depuis 2 ans on fait de la game jam avec sous forme d'ateliers pour les enfants.
Et vous avez créé des jeux vous, quant à vous?
Je vais dire que j'ai co-créé un jeu avec l'aide des enfants.
En tant que scénariste ou codeur?
En tant que coordinateur général de l'équipe.
J'aime bien, moi, coordinateur général.
Cette appellation.
J'aime bien. Jean-Loup et moi, nous sommes vieux.
Non, attendez. C'est vous qui avez décidé de vous vieillir de 20 ans. Moi, qui paraît encore,
Alors, Jean-Loup, on va dire qu'il pense qu'il paraît plus jeune que moi. On va lui laisser ça. Mais est-ce qu'il existe, des jeux pour les vieux? Alors, moi, j'en ai trouvé un, moi, sur Internet. C'est un truc tout con. C'est en 2D. C'est-à-dire que vous avez un espèce de bonhomme. Il tire au pistol.
Dès que ça tire,
les balles rebondissent et ça tue des bonhommes qui tombent sur des espèces d'échafaudages. C'est sur un site tout pourri, qui s'appelle Coldplay. où il y a que des jeux comment très très basiques.
De vieux.
Des jeux c'est de ça, vieux
ouais,
en 2D.
Pour les, ouais, les jeux pour les gens incapables, c'est ça qui ouais. Ouais.
Alors pourquoi
c'est... Alors est-ce qu'il en existe encore? Est-ce que ça se développe encore des jeux qui soient pas forcément hyper sophistiqués comme ce qu'on fait maintenant quoi?
Je pense que certaines boîtes se font un malin plaisir de d'essayer de vendre des jeux en disant qu'ils sont faits. Vous savez comment ça fonctionne? Il suffit de déclarer que c'est fait pour les vieux et les vieux l'achètent. On fait des téléphones avec des grosses touches. On dit
mais
que c'est
vous,
pour les vieux.
Vous en
donc
pensez,
les vieux
vous
bah, il suffit de dire que.
Bah je pense que c'est plutôt pas la bonne manière d'agir.
C'est pas honnête.
Bah non, c'est
vous
pas honnête.
Vous feriez quoi si vous deviez faire un jeu pour les vieux?
Je ferai pas un jeu, j'irai voir dans les jeux existants les bons jeux qui existent et j'irai y jouer avec les vieux.
Et ah ouais, c'est vrai que vous êtes plus simple. Un joueur qu'un créateur.
Et une petite question encore complètement con. Vous parliez de jeux d'arcade. C'est quoi ça en fait? C'est les jeux simplistes comme Roger l'évoquait ou ça correspond à une marque ou enfin je sais pas.
C'est pour certains, vous avez parlé de philosophie des jeux vidéo, et je pourrais faire un petit clin d'œil référence à un copain qui s'appelle Mathieu Triclot et qui a édité un livre qui s'appelle Philosophie des jeux vidéo. Je conseille fortement la lecture de ce petit bouquin qui démarre par un dialogue entre Socrate et Mario. Et j'en dis pas plus.
Philosophie, alors on mettra ces références-là dans le blog. Mais alors, philosophie des jeux vidéo, de qui, vous dites?
Mathieu Triclot. Le bouquin est lisible intégralement en ligne, c'est aux éditions Zone. Il n'y a pas besoin de l'acheter, vous pouvez le lire en ligne. Si vous voulez le format papier, vous paierez le prix du papier. Et dans ce bouquin, effectivement, il évoque les prémices des jeux qui sont effectivement nés... en premier lieu dans des sous-sols d'université, puis qui ont glissé vers une exploitation commerciale dans les salles d'arcade, et qui ont donné lieu à une, je vais parler d'une famille de jeux, qu'on appelle jeux d'arcade, où quel que soit le type de jeu, que ce soit un jeu où il faille tirer sur des trucs, ou un jeu de sport, tel sport Pong, c'est un jeu de sport, hein, mine de rien, c'est du tennis, enfin bref, que ce
oui,
soit un jeu d'adresse,
ping-pong,
de réflexion
oui.
ou autre, c'est des jeux d'arcade, et la logique de ces jeux-là, c'était pas qu'ils étaient simplistes, mais qu'ils étaient, j'ai plutôt envie de dire, simples et efficaces. Efficient. On dégage tout le superflu et on fait en sorte que ce jeu-là, en une minute, on va y prendre du plaisir.
On va le maîtriser. Il suffit pas d'avoir 17 doigts et 50 manettes. Là, il suffit de monter, de descendre, tout simplement.
La règle d'or de ces jeux-là, c'est simple à jouer, simple à aborder et difficile à maîtriser.
Ah. Et est-ce que vous en avez un, vous? Est-ce que vous avez des vieilles consoles d'arcade de bistrot chez vous? Vous en avez?
Je confesse, il y a un petit côté Madeleine de Proust dans la chose et j'ai quelques Madeleines dans mes tiroirs.
J'ai l'impression que vous avez un petit peu le museau sale. vous en avez combien?
Un peu trop.
Ah, vous en avez combien? Dites-nous.
Sommes-nous vraiment à savoir?
Bah, écoutez, moi je collectionne des livres, j'en ai partout.
Non, mais Emery ne se présente pas au présidentiel, il n'a pas besoin de déclarer son patrimoine quand même.
Qu'est-ce que vous avez? On est d'accord, c'est une espèce de console avec une espèce de télé encastrée là-dedans, avec le bois autour, les autocollants, la déco. Vous avez ça?
J'en ai deux là où j'habite, oui, effectivement. Ça va, c'est raisonnable.
C'est quel jeu? Bah oui, bien sûr.
C'est des bécanes sur lesquelles on peut jouer un peu tout et n'importe quoi. C'est des joysticks et des boutons. C'est pas des machines avec des volants ou des flingues. Mais en l'occurrence, sur l'une d'entre elles, il y a un Street Fighter. Et sur l'autre, il y a un autre jeu de combat.
Est-ce que vous avez un vieux Galaxian là-dessus? Vous avez pas ça?
Possiblement, ouais. Je peux débrancher Street Fighter pour mettre un Galaxian.
Galaxian, c'est pas un vendeur.
Galaxian, c'était une espèce de petite bestiole qui descendait. Ça descendait doucement. Vous aviez une fusée que vous ne pouviez déplacer que de gauche à droite. Et elle descendait. Et de temps en temps, il y en avait qui partaient et qui vous bombardaient comme ça.
Et aujourd'hui, ce style de jeu, c'est mort ou... apparemment, ce que décrivait Roger quelque part, c'est un jeu d'arcade.
C'est complètement un jeu d'arcade. C'est... attention à ce que je vais dire, c'est d'une certaine manière commercialement mort dans les bars et salles de jeu.
Trop
en tout cas, il y en a quelques-uns qui le font. Trop simple, il y a un côté, il y a la même chose à la maison, mais ça revient. Ça revient.
Côté vintage, parce que ça peut revenir. Moi, je verrais ça, un Galaxia dans un bistrot, je joue.
Voilà, donc c'est dur ce que je dis, c'est un peu nul de dire, c'est commercialement mort, mais je m'en fous. En termes de plaisir, c'est certainement pas mort.
Ah, moi, c'est clair. Moi, les jeux de mon môme.
Si on fait des références à la musique, certains styles de musique sont complètement commercialement morts, mais elles sont toujours vivantes.
Voilà, donc ça n'a pas de sens de dire ça comme ça.
Ouais, sauf que Jean-Loup, il y a une autre différence, c'est que l'autre jour, cet été, je regardais mon fiston qui jouait un espèce de jeu d'homme préhistorique.
Il joue beaucoup.
Il était là avec un arc et que je te dérouille de l'homme préhistorique. Il avait un espèce de pote, un espèce de tigre à dents de sabre, à dents de sabre et tout. Je le regarde pendant quoi? Une demi-heure, trois quarts d'heure, je vais me coucher. Toute la nuit, j'ai fait des cauchemars, mon bon Jean-Loup. Et j'étais dans la jungle, c'était horrible, horrible. Et ça, c'est trop sophistiqué. Moi, je suis sponté, moi, par la qualité. C'est-à-dire que j'ai l'impression, moi, que on offre aux gamins la possibilité, Jean-Loup, vous savez,
d'un réalisme.
Ouais, ils sont dans un dessin animé. C'est eux qui fabriquent leur dessin animé. Et à un moment donné, il y avait des prisonniers, et c'est là où ça peut paraître un petit peu bizarre. Par contre, il me dit, tiens, si tu veux, là, j'ai des prisonniers, je suis pas obligé, mais je peux leur coûter un coup de massue sur la gueule. Et il fout un coup de massue sur la gueule à une bonne femme prisonnière.
On l'avait cherché aussi.
Elle avait sûrement cherché.
Elle avait regardé.
Là, c'est bizarre aussi. C'est là où on retombe aussi avec une espèce de truc bizarre. Est-ce qu'on a le droit? Comment peut-on laisser le droit, justement, de, et ça donne même pas de points, en plus.
Ouais. Ouais, ouais, bah, c'est, certains jeux vidéo pouvaient être très directifs d'une certaine manière parce que la technique ne permettait pas de donner plus de possibilités. Et certains autres jeux, au fil du temps et aujourd'hui plus que jamais, sont d'une, donne un relatif sentiment, je dis bien relatif sentiment de liberté, où on peut être amené à faire tout et n'importe quoi. Moi, je vais mettre un avis plutôt critique. Quand il y a trop de liberté, au final, on sait plus quoi faire là-dedans, et c'est juste un pseudo ersatz insipide de la réalité. Et je trouve qu'on s'y ennuie. Mm-hmm. Enfin, je préfère un jeu où l'auteur y a mis une intention et veut nous amener quelque part, plutôt qu'un semblant de réalité fade.
Et ce qui est un peu paradoxal, en fait, souvent, dès qu'il y a une nouvelle technologie, soit le Minitel, Internet, etc., c'est la pornographie qui font que les gens utilisent et que ça n'apparaît apparemment pas du tout dans le...
Est-ce qu'il y a des jeux pornographiques? Bonne question. Ouais. Est-ce qu'il y a des jeux pornographiques?
On m'a posé la question il n'y a pas si longtemps que ça, une question plutôt candide de quelqu'un qui méconnaît relativement le jeu vidéo, l'histoire du jeu vidéo, et à ça j'ai répondu que sur l'Atari, la console Atari, dans les années 80, il existe un jeu qui est... On m'a demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des consoles ou des jeux qui coûtent cher? Je dis oui, certains, il peut y avoir un côté collection. Et ce jeu coûte très cher parce qu'il est difficilement trouvable. Et c'est un jeu où c'est plus que de la pornographie. On y joue le rôle d'un cow-boy et il faut attraper une indienne et la violer contre un cactus.
Oh.
Et ouais, vous avez parlé de trucs raides
tout
à l'heure.
Entre-tuer,
il n'a pas fallu attendre les jeux vidéo.
Nous rappelons qu'on sommes en compagnie de Emery Péné, coordination générale de l'association 3 Hit Combo.
Allez,
assume totalement ses propos.
Non mais c'est,
j'assume tout à fait et je vous le dis cash parce que c'était ainsi.
Mais c'est souvent le cas. Si le Minitel s'est développé, si Internet à l'époque du Minitel, si Internet a explosé, c'est souvent la pornographie qui poussait en avant.
Ouais, mais c'est vraiment le cas.
Bah non, c'est ce que.
Bah non, parce que ce jeu. Enfin.
Non mais je parle des jeux.
Imaginez ce qui se passait à l'écran dans les années 80 sur un Atari 2600. Essayer de mettre une image sur ce que je vous décris, aussi horrible, débile que ça puisse être, et ce jeu a dû se vendre sur un fond de effectivement de pornographie, on vous vend du fantasme, et oui, ça s'est vendu. Et ça existe encore aujourd'hui, plus que jamais.
On s'écoute un petit disque, et après j'aurai deux ou trois questions plus précises justement sur l'association 3 Hit Combo. C'est parti.
The first time.
Voilà, toujours en compagnie d'Emeric Lenné de l'association Trois Hits Combo. Et justement, il nous reste pas beaucoup de temps. Il y a combien de personnes, en fait, à Trois Hits Combo
au dernier recensement, on va dire. Alors, du côté des permanents salariés, puisque l'asso emploie des salariés depuis 2014, nous sommes 4 permanents salariés et il va sourire s'il m'entend, un permanent indépendant qui est à nos côtés.
C'est plus fort que Canal B, on n'en est même pas à 4 permanents salariés, non. Ouais.
Donc c'est bien. Et
alors, cinq permanents.
Donc on a l'impression que vous êtes une association riche, mais pourquoi vous avez un seul portable pour 4? Et qui c'est qu'il a actuellement?
Il est sur une table esselée en train de se vider de sa batterie défectueuse.
Vous avez pas de fixe, c'est
Non, c'est vrai.
Ouais, mais c'est bizarre.
Mais donc du coup, plus sérieusement, si on veut comment s'introduire, si j'ose me permettre, dans votre association, c'est possible.
C'est une association avec des adhérents. Notre assemblée générale a eu lieu le 18 février dernier. On a 120 adhérents à peu près.
Et autrement, en termes d'activité publique, si j'ai envie de vous voir, est-ce que vous tenez...
Bah, vous avez une permanence, un lieu
de club de foot, rappelez quand on parlait de ça tout à l'heure.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un jeu débarque un soir, vous êtes en train de jouer, comment je fais?
Malheureusement, nous n'avons pas de locaux ouverts au public. On a des bureaux, plus des bureaux administratifs qui nous permettent de bosser, de nous organiser. Et les adhérents ont des initiatives diverses et variées. Historiquement, c'était effectivement les joueurs de jeux de baston qui existent toujours et qui jouent. Plus dernièrement, on a vu émerger des cafés-débats. Il y en a un ce soir même au SINS 42 à Rennes sur la question du narcissisme, de notre narcissisme dans le jeu vidéo.
C'est-à-dire
Le jeu vidéo fait-il du pied à notre narcissisme? Est-ce qu'on
se prend pas justement pour le héros quelque part
Je ne sais pas de quoi ils sont en train de débattre, mais certainement de questions d'avatar, de projection de soi dans le jeu vidéo et de
schizophrénie. Allez savoir.
On vous a fait croire ça alors qu'ils regardent le match actuellement entre le et pas une question. Vous vivez de quoi en fait? De subventions? Vous êtes
On vit d'une petite partie de subventions, essentiellement fléchée sur le festival Stunfest que j'ai évoqué tout à l'heure, et aussi un petit peu en partie sur le fonctionnement de l'asso à l'année. Mais on a encore un peu de boulot là-dessus à faire pour faire reconnaître la fonction ressource qu'on peut avoir. Et sinon, on fait de la prestation de services sur
dans le milieu scolaire, par exemple.
Espace culturel, scolaire, collectivité, etc., etc.
Et ça se passe comment? C'est-à-dire que vous offrez quoi dans un lycée, vous pouvez proposer quoi, par exemple?
Eh ben, c'est une très bonne question. Hier soir, dans un lycée pro, quelque part en Ille-et-Vilaine, quelques deux loustiques de mon équipe, là, je sais pas s'ils m'écoutent ce soir, Pierre et Yvan étaient...
Ouais, ils regardent le match.
Je pense pas. Ils m'écouteront plus tard en podcast. Étaient dans ce lycée en train de faire un let's play. Je vous balance encore un anglicisme. Donc, ni plus ni moins qu'une séance de jeu. Let's play, c'est des joueurs qui montrent leur partie de jeu via écran interposé sur le net et qui en parlent et des gens les regardent. Nous, on installe des formes de séances de jeu en dur avec des gens en face. Et là, en l'occurrence, avec des internes en lycée, on joue un jeu qu'on leur propose un ensemble de jeux plutôt inhabituels pour les sortir un peu de leur zone de confort. Et on y joue ensemble et surtout, on en parle de ce qui se passe pendant cette séance de jeu. Donc, il y avait 18 lycéens devant un jeu qui s'appelle Firewatch, où on est un surveillant de parc national aux États-Unis qui attend qu'un feu se déclare possiblement pour prévenir qui de droit. Sauf que les trois quarts du temps ou 99% du temps, il se passe rien. Donc on parle au téléphone avec sa femme, on se promène, on regarde la nature, on discute avec ses collègues et on soulève un paquet de questions philosophiques.
Ah, c'est rigolo. Et les gamins, comment ils réagissent là-dessus du coup?
Ben, ils ont donc choisi ce jeu-là, bien loin des jeux de flingues et autres qu'on pourrait imaginer. Et donc ils ont passé hier une bonne heure et demie à discuter et des mécaniques de jeu et de ce que le jeu permettait ou ne permettait pas et de ce que eux feraient s'ils étaient dans cette situation et des décors et de l'esthétique, etc., etc.
Et donc vous demandez un petit peu de sous pour ce genre de prestations, ce qui vous permet d'en vivre en fait quelque part?
Ouais, là c'est en l'occurrence par l'intermédiaire d'un budget qui était fléché Ligue de l'enseignement, intervention en milieu scolaire,
projet d'enseignement, un truc comme ça. C'est cher ou quoi? Non.
On essaye de faire des tarifs raisonnables, mais il pourrait sûrement être plus raisonnable si on était un peu plus aidé. Si on venait sur ce terrain-là, on pourrait en disserter.
Une ordre de prix, c'est quoi? C'est
sur une intervention, un let's play, une séance de jeu comme ça sur une soirée où on arrive avec le matériel, des intervenants, on va être sur un petit 250 euros pour animer ce temps-là.
Et vous êtes à combien de personnes? Deux ou trois?
Là, en l'occurrence, ils étaient deux hier soir.
Ouais, mais enfin, ça reste raisonnable. Eh oui, comme disait Roger, hop, la gravité à l'envers fait que, bah, il est l'heure de se quitter. Vous retrouverez tous les liens, tout, mais tout sur le blog des Grignoux. Il suffit de taper les Grignoux sans X et sans S. Et puis voilà, on se passe un petit disque, on laisse l'émission.
De la programmation Roger encore, du coup?
On sait pas. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut!
Salut!
Si le cœur vous en dit.
Where you gonna run to?
Know it.
Old is my land. Where you gonna run to?
Know it.
be right here in your face. Can't do it like me, dawg. You kick drum, ain't got enough bass. Don't never talk bad about me. You just might make me mad. And I just might see you somewhere and break your ass in half. This is not the Timberland of your